Just because you travel doesn't mean you can't keep your routine. The more obstacles travel puts between us and our well-being, the more we strive to eat well. At Westin Hotels and Resorts, we're focused on empowering your well-being. With Westin Fresh by the Juicery, you can stay revitalized with a fresh assortment of juices and smoothies. And start the day right. Don't leave your well-being behind. We give you the choice to get up or to rise. Search Westin online to find out more. Westin, let's rise.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On a plusieurs places à notre âge, comme on dit.
C'est dommage, c'est une belle occasion de rater, mais on va essayer de s'en procurer d'autres cet après-midi.
On a des hommes de caractère, donc on va tout faire pour relever le tir.
Jusqu'à minuit,
c'est l'After Foot, Nicolas Jamal.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est Will After est là comme tous les soirs jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télévision sur RMC Sport News. After, la seule émission en direct 7 jours sur 7 à la radio comme à la télé. Casting du soir, bonsoir Jonathan McCarthy.
Salut les amis.
Salut Ludovic Obraniak.
Salut à tous.
Pas de pub à l'antenne, Jonathan pour l'instant. Et un invité exceptionnel ce soir. Parce qu'il aime le foot, mais aussi parce qu'il aime la boxe. Bonsoir, coach Courbis.
Salut à tous.
Le retour putain, de coach, Michael Buffer.
Le retour de coach dans l'after, bien sûr. Oui, car ce soir, c'est un after de 2 heures, bien sûr. On va débriefer la Ligue 1, les victoires de Nice, de Monaco, de Rennes. Tout le monde remonte au classement et se relance dans la lutte au podium. La victoire de Montpellier, de Paris à Montpellier. Les 3-4 drôles dames ce soir. Beaucoup de choses à vous raconter, notamment en Allemagne. La défaite du Bayern, celle, la victoire du Borussia Mönchengladbach. Et puis également le Real avec Benzema buteur, le Barça un but exceptionnel de Luis Suarez, le match est en cours face à Majorque, le Barça domine largement les Mallorquins et bien sûr l'Italie, Juve, Lazio, ou plutôt Lazio Juve, grande soirée mais aussi et surtout peut-être qu'on peut mettre le son déjà, un énorme combat de boxe. Oui, il y aura un petit after box quand même ce soir parce que vous allez vivre la grande revanche, un des combats les plus attendus de la décennie chez les poids lourds entre Ruiz et Joshua. Ruiz
qu'on va suivre assidûment quand même.
Assidûment,
ça
reste une émission de foot, Ludo.
On est quand même loin du vrai combat qui est attendu, la revanche entre Tyson Fury et Deontay Wilder.
Attends, pour le coup
c'est
là.
C'est quand même bien, hein.
Ouais, là, sincèrement, là, c'est très attendu. Ça se passe en Arabie Saoudite. Et ça, le combat sera dans une trentaine de minutes entre le Britannique Anthony Joshua, terrassé il y a 6 mois au Madison Square Garden par un petit américano-mexicain qui fait 10 cm de moins, 40 kilos de plus. Non, j'exagère un peu. Et qui va essayer de battre pour la deuxième fois celui que beaucoup considéraient comme le meilleur boxeur actuel chez les poids lourds.
Mais beaucoup, c'est qui beaucoup?
Il y a débat.
C'est qui
avant qu'il tombe à New York?
C'est les gens bêtes en fait.
Oh là là, mon Dieu. C'est pour lui, le monde se divise en deux catégories, les bêtes et les intelligents. C'est plus nuancé que ça la vie, Jonathan McCarthy.
Ouais, de la considérer.
Et coach, tu voulais rester là avec nous pour ce combat non. Aussi, c'est ça, coach?
Ah bah oui, je veux voir avec curiosité si un miracle peut se passer une deuxième fois.
Je peux se reproduire, à savoir Ruiz qui battrait une nouvelle fois Anthony Joshua. D'abord, messieurs, le programme et le décor est planté. Jingle 3 points.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les 3 points.
Souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Je rappelle, 16 buts ce soir en Ligue 1 en l'espace de 4 matchs. 20 avec la victoire du PSG en fin d'après-midi. Je rappelle que Paris a battu Montpellier 3-1. Strasbourg a battu Toulouse 4-2. Nice a battu Metz 4-1. Monaco a battu Amiens 3-0. Et Rennes a battu Angers 2-1. Jonathan, tes 3 points.
Le premier point, c'est sur l'AS Monaco qui, mine de rien, se replace plus que bien au classement après un début de saison cataclysmique. Alors, il profite du championnat qui ultra resserré, mais c'est une équipe qui je trouve est en progrès, qui certes dépend extrêmement de la puissance de feu de Ben Yedder, mais qui progresse de match en match. Le deuxième point, c'est sur la victoire de Strasbourg qui reste une équipe irrégulière mais spectaculaire, et j'attends de voir Strasbourg avec une condition physique optimale en janvier. Troisième point, Paris Saint-Germain qui bat Montpellier. Écoute, je pense que le score n'est pas révélateur de la physionomie du match. Le dernier quart d'heure efface un petit peu tout, mais encore une fois un Paris totalement inconstant.
Ludo,
si c'est pour revenir sur le match de Paris, je dirais séduit mais pas dupe, parce que le talent et le génie bien sûr me touche particulièrement. Après, je suis pas dupe sur l'apport, justement la place de ces individualités, de ce génie dans le collectif. Je suis très inquiet sur la puissance collective du Paris Saint-Germain. Mon deuxième point, c'est la course au maintien qui commence à se dessiner. Strasbourg est 15e ce soir avec 21 points. Derrière, l'écart commence à se creuser.
Ça y est, hein.
Bon.
Il y a les équipes
qui sont en grande, grande difficulté. Et mon troisième point, c'est Nice, le retour des hommes du milieu. Avec Lesmelou et Cyprien, qui, quand ils sont dans une forme un peu plus adéquate, rayonnent un petit peu plus sur le... Sur le bilan des derniers matchs de l'OGC Nice.
T'as raison, le trou est fait avec 5 équipes au classement en bas de tableau. Là, ça va être dur pour Dijon, 16e, Amiens, 17e, Metz, 18e, Nîmes et Toulouse, 19e et 20e. A priori, attention, n'allons pas trop vite quand même, ça pourrait jouer le maintien entre ces 5 équipes de bas de tableau de Ligue 1. Voilà, pour les 3 points, on va développer ça ensemble pendant 2 heures. Je vous le disais, les drôles de dames, ce sera à partir de 23h. On va commencer par la victoire de Monaco. Justement, Jonathan, c'était un de tes points. Monaco est la soirée parfaite, hein. La force de frappe offensive, on la connaît. Et même sans Slimani, ils en collent 3. Et surtout, clean sheet ce soir, 3-0.
Mais c'est ça, écoute, alors, est-ce qu'on se serait dit, après le début de saison catastrophique de l'ASM, que, allez, en décembre, il serait potentiellement
entré dans le top 10 pour ça y est, première fois depuis le début de la saison.
Parce que, rappelle-nous, c'est 4 points avec le podium, c'est ça?
4 points. Monaco 9e, 24 points. Lille 3e, 28 points.
À 4 points du podium.
Avec un match de retard.
Roland, t'as raison. En plus. Donc, avec la surface financière de l'AS Monaco, avec ce qui peut se passer au mercato d'hiver.
Monaco PSG.
Avec la dynamique de l'équipe que je trouve est en progrès, c'est inespéré, c'est inattendu. Comme quoi, fallait pas forcément tout jeter. C'est une équipe qui est remplie de talent, alors qui certes est, ça ressemble à un bordel sans nom, hein, quand tu vois la conversion de l'effectif. Il y a de quoi quand même faire un vrai candidat sur le podium. Et c'est en toute logique que l'AS Monaco va revenir en deuxième partie de saison pour jouer la Ligue des Champions.
Ça y est.
Ils vont jouer le podium. Pour
les 3 semaines, t'en étais pas là du tout. Hein.
Ils vont jouer pour. Mais c'est le charme du championnat de cette année. C'est que tu fais une série de victoires, de 2-3 victoires d'affilée, et tout de suite, tu redeviens un candidat. Là, quand je vois le potentiel offensif de Monaco, les progrès qui sont faits derrière, même si c'est pas encore ça.
Maripane qui marque ce soir.
C'est toujours son frère, Maripane. Hein. Par rapport au joueur qu'on voit avec le Chili et le joueur qui joue à Monaco, c'est toujours son frère, mais il est en progrès. Et surtout, quand on prend en considération qu'en janvier, il y a un mercato hivernal avec la surface financière de l'AS Monaco, tu peux te dire que Monaco, oui, sera un candidat au podium.
Coach.
Mais quand tu disais justement qu'il y avait des équipes qui se dégageaient en ce qui concerne le bas du classement, je crois que finalement, même si notre niveau en France est critiqué, par moments il est critiquable, je trouve quand même passionnant. En ce qui concerne ce fameux podium, ben je vois moi 6 à 7 équipes capables d'y être sur ce podium.
Et ah vas-y, on peut y aller.
6 à 7 équipes minimum.
Marseille, Lille, Rennes.
Celles que tu vois, ils y sont.
Bordeaux aussi ?
Ben oui.
Marseille, Lille, Rennes, Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Montpellier, Monaco.
Eh oui.
Pas Angers, Nantes.
Ben,
pas en dessous.
Non, sincèrement non, je le vois mieux au tableau.
Voilà.
Et en ce qui concerne après le Paris Saint-Germain, mais c'est vrai que le Paris Saint-Germain arrive malgré tout en étant moyen à gagner ses matchs. Parce que le Paris Saint-Germain d'aujourd'hui, mais c'est sûr que ça reflète pas un petit peu ce qu'on a pu voir pendant une heure du match.
L'expulsion de Mendes.
Ouais, absolument. Et en ce qui concerne le dernier match contre Nantes, il a été gagné celui-là aussi. Mais je me disais, tiens, du côté de Marseille, on va peut-être avoir des regrets de ne pas avoir joué le match avec une chance de leur poser au moins des problèmes. On leur a même pas posé l'ombre d'un problème.
Ludo, le bilan est beaucoup moins séduisant en ce qui me concerne sur le AS Monaco. Alors certes, ce soir...
Pas de podium forcément pour toi ?
Non.
T'y crois toujours pas ?
J'y crois toujours pas. Certes, ce soir, ils gagnent 3-0 avec de la facilité, mais il a fallu attendre le but de Wissam Ben Yedder sur un cafouillage et sur sa capacité, notamment en bon joueur de futsal qu'il est, de se retourner très vite dans la surface de réparation pour débloquer un match qui était très compliqué déjà. Je cite quand même les derniers résultats de l'AS Monaco. Donc 3-0 contre Amiens, qui est dans une panade terrible.
Et 14 buts encaissés en
carrière. On en parle.
Toulouse, n'en parlons pas.
6 défaites consécutives.
C'est porte ouverte.
Mais t'as raison,
par contre, tu vas jouer à Bordeaux, tu perds 2-1. Tu gagnes chez toi 1-0 contre Dijon, et encore.
Ouais.
Et t'as perdu à Saint-Etienne. Ouais. Je dis juste ça.
T'as raison, mais je dis qu'avec que tu joues les 5 derniers du classement.
Je dis qu'avec l'effectif, en tout cas les noms qui sont dans ce groupe et la qualité des joueurs. Je trouve pas que Jardim fait un travail dingue.
Voilà. C'est pas en contradiction à ce qu'on a dit. Moi, j'ai pas dit que Monaco était une équipe qui jouait bien. J'ai pas dit que Monaco était une équipe séduisante de Ligue 1. Tu dis juste que dans le contexte de cette année, même si c'est toujours un petit peu,
même si c'est pas toujours indiscutable.
Oh, c'est vu l'effectif que t'as, je pense quand même qu'ils vont jouer le podium. Et je te dis pas, ça veut pas dire que Monaco est une équipe de qualité. Je te dis juste que par rapport au contexte, par rapport à comment ça se passe, par rapport à la structure du championnat de cette année, ça m'étonnerait pas qu'ils soient en course jusqu'au bout.
Si Monaco ne se renforce pas derrière, Monaco ne jouera pas. Ludo, ne jouera pas le podium.
Tu sais qu'ils vont prendre cet hiver. Non. Ils vont prendre des joueurs. Non, mais ils vont acheter des joueurs. Tu le sais bien.
Je suis pas certain. Moi, il y en a déjà tellement.
J'ai Pavlovic qui va arriver. Il y en a déjà 18 ans.
C'est pour l'avenir. Ils ont tendance à dégainer le carnet tchèque assez facilement.
On peut jouer ce soir. Là, on est à plus du tiers du championnat désormais. On est quasiment à la moitié du championnat. 17 journées. Qui fait podium?
Moi, je te dis.
Qui accompagne le PSG sur le podium?
Paris, Marseille, Montpellier.
Paris, Marseille, Montpellier, troisième de Ligue 1, coach. Toi, tu vois qui, là?
Logiquement, Paris, Marseille et Lyon.
Et Lyon, voilà, la logique respectée.
Et Montpellier, pourquoi pas, quatrième.
Lyon qui a une fâcheuse tendance à très bien finir ses saisons, en général.
Ça aussi, ouais.
Ludo?
Paris, Marseille, Saint-Etienne.
Saint-Etienne!
Ah ouais, avec Claude Puel, ouais.
D'accord.
Donc, c'est plausible aussi.
Attention à Rennes également. On va tout de suite faire une.
Ah putain, on aurait pu faire un truc, j'ai oublié.
Vas-y.
Je voulais taquiner un peu Daniel dans les trois points.
Riolo ?
Ouais. J'aurais pu mettre le retour du génie breton.
Ah
oui.
Julien Stéphan.
Eh oui.
Trois victoires consécutives.
Et un match de retard. Sinon.
Et un match. Mais tout le monde. Enfin, il y a combien d'équipes qui ont des matchs de retard ? Monaco, Saint-Etienne pour l'instant.
Ouais, mais Rennes, un match de retard contre Nîmes.
Pour être très clair, si Rennes gagne son match de retard contre Nîmes, Rennes aura 30 points et sera troisième de Ligue 1. Si Monaco gagne son match de retard contre le PSG, le 15 janvier, ces matchs-là, hein, Monaco sera quatrième de Ligue 1. Tu vois l'histoire?
C'est dingue. C'est le PSG, hein, quand même.
Ça va très très vite. C'est le PSG, quand même. Et tu sais, Monaco, avec sa force de frappe offensive. Appelez-nous, hein, supporter monégasque au 32-16, hashtag RMC Live ouvert, bien sûr. Jonathan?
Sur ce match, on va revenir sur le match de Monaco. Moi, j'aimerais revenir sur Amiens. Amiens, en fait, ils sont dans une situation, et j'en parlais, je l'embrasse avec Jean-Marc de la Maison du Whisky, un long débat sur l'équipe d'Amiens. Amiens, ils sont dans une situation un petit peu compliquée avec Lucas Elsner, qui est typiquement représentatif de ce qui peut se passer avec ce genre d'entraîneur. Quand tu regardes le match, je trouve qu'ils sont pas ridicules jusqu'au premier but monégasque. Ils mettent Monaco 0-0 à la mi-temps, hein. Ils se créent des situations.
Le match,
ils essayent sans arrêt.
Sur un cafouillage.
Ça se débloque sur le cafouillage. Mais à un moment, je pense qu'Elsner, dans cette situation, dans la situation dans laquelle il va devoir faire un choix. Le choix, c'est est-ce que je continue à vouloir être aussi ambitieux dans le jeu? Ce soir, j'ai trouvé que c'était intéressant encore ce qu'il a proposé. Ou est-ce que maintenant, je me rends compte qu'on est dans une situation critique et on essaie d'un petit peu plus, voilà, si on voit qu'on n'arrive pas à marquer, essayer de prendre un point. Je pense que la question va devoir se poser. Ça remet pas en doute ses qualités d'entraîneur, ses qualités de tacticien et ce qu'il nous avait pu nous montrer, qui ne s'est pas forcément traduit par des résultats, mais dans le contenu en termes de football.
Mais maintenant,
quand t'es dans la situation d'Amiens, il va devoir se poser un choix. Et je pense que c'est un entraîneur qui est jeune et qui va devoir vraiment prendre une décision qui est très forte. Est-ce que je continue à rester 100%
je sais pas, coach,
comme ça, ou est-ce qu'à un moment faut un peu faire?
Elsner a des belles idées romantiques de jeu offensif, toujours jouer, produire. Quand tu prends 14 buts en 4 matchs et que tu glisses dans les fins fonds du classement, est-ce que tu changes tes idées?
Il y a un joueur qui a un peu d'expérience quand même.
Mais à part les deux trois dernières semaines, j'avais été quand même agréablement surpris par ce que fait Amiens et ce que fait ce coach. Donc là maintenant, j'ai pas tout en tête, mais je crois qu'il y a pas mal de blessés de partout.
T'as des blessés, t'as Godos qui est suspendu aussi
du côté d'Amiens. Donc Amiens est peut-être affaibli à ce moment.
Ce que je veux.
Non, tu veux. Il laisse Jallet sur le banc ce soir.
Oui.
Bon, peut-être que. Alors, Jallet, il a plus ses jambes de 20 ans. Mais en termes d'expérience, je pense que ça peut-être stabiliser un peu plus cette défense.
Messieurs, parenthèse, championnat du monde de boxe poids lourd, Arabie Saoudite. Anthony Joshua, Andy Junior, un moment toujours fou à vivre. Présentation des deux combattants, des deux boxeurs, avec Michael Buffer, la voix légendaire de la boxe. Let's get ready to rumble. Morgan Mori.
Salut à tous.
Salut Morgan.
Michael Buffer qui est au centre du ring, toujours impeccable dans son costume, sa petite fille, j'ai les deux garçons qui sont montés sur le ring. D'abord Anthony Joshua, puisqu'il est le challenger, dans un peignoir blanc, extrêmement concentré. C'était très simple l'entrée de l'ancien champion du monde, avec quelques rayons laser bleu, rouge et blanc. Ça rappelait un peu James Bond. Et entrée un peu plus pétaradante pour Andy Ruiz, le nouveau champion du monde, le champion du monde avec, il y a quatre ceintures autour de la taille, avec de la salsa et un peignoir doré avec un intérieur fourrure et des images du Christ sur les manches. Les deux garçons qui se font face, les hymnes ont eu lieu, c'est Michael Buffer.
Et la formule de Michael Buffer qui va arriver là, on va la laisser. Allons-y.
Ladies and gentlemen, from the kingdom of Saudi Arabia, let's get ready to rumble.
Oh mon Dieu.
Extraordinaire.
Ouais, c'est extraordinaire.
On s'en lâche. Tu savais que son frère, c'était le commentateur mythique de l'UFC.
L'UFC.
Son cousin, Bruce Buffer. Non, c'est son frère.
C'est son frère. C'est son frère, le frère de Michael, Bruce Buffer. Cet homme-là, Michael Buffer, hein, qui vient pour les grands combats. Hein. Bon, il prend un petit chèque au passage, hein, 2-3 000 euros. Quoi,
ouais, plus, quand, tu vois. Quand il va partir, il va falloir penser à faire un hologramme ou quelque chose.
Parce que... carrément, très belle idée.
Michael ouais. C. William est pas mal aussi.
Mais Michael Buffer, qui a joué dans Rocky. Hein, mais... Carrément. Hein. Si, il a joué dans Rocky. Certains.
Oui, bah oui, certains.
Voilà ce combat qu'on va vivre en fil rouge, en l'after, bien sûr, avec Morgan Mori. Est-ce que Joshua va récupérer ses 3 ceintures mondiales chez les poids lourds? Où est-ce qu'Andy Ruiz va réaliser, comme le disait coach tout à l'heure, un deuxième miracle, 6 mois après le miracle du Madison Square Garden.
Ah mais là j'appellerais plus ça un miracle.
Ouais.
Pour moi, le premier combat, c'était un miracle. J'ai les connaissances limitées, mais je trouvais que il avait été un petit peu avec un excès de confiance. Mais là, si ça se passe une deuxième fois, je changerai ma vision.
C'est pas un excès de confiance. En fait, le problème, c'est quand tu l'envoies au tapis au troisième round, il essaye de le finir tout de suite. Et du coup, il maintient plus les distances dans lesquelles il était sûr. Et là, il se fait attraper.
Morgan, rapidement, les mensurations des deux hommes, quand même.
Les mensurations des deux hommes. Andy Ruiz, 1m88, 128 kg, 400 grammes à la pesée. 1m98, 107 kg et 500 grammes pour Anthony Joshua, qui a perdu 5 kilos par rapport à la dernière confrontation.
Ça fait 20 kilos de différence quand même.
Entre les deux hommes, 20 kilos de différence. Mais Andy Ruiz, il n'a pas la boxe de son physique, attention, et les abdos sont cachés dessous. Ouais. Mais il a une vitesse de bras et un punch étonnant, ce garçon. On va vous raconter ça. C'est la présentation d'Andy Ruiz en ce moment par Michael Buffer. Et dans 3-4 minutes, c'est parti pour ce championnat du monde. 12 reprises de 3 minutes.
Et on suit ce combat avec toi, Morgan, bien sûr. Dans un instant, appelez-nous, supporter dernier soir. On va évoquer avec vous la victoire du gym 4-1 face au FC Metz. Victoire étincelante des hommes de Vira qui avaient le sourire ce soir grâce à Cyprien Doublé, Ganago et Les Melou. Appelez-nous au 32-16, supporter niçois. On va commencer maintenant, les gars, sur Nice, hein, qui s'est repris après sa défaite en milieu de semaine. 2 victoires sur les 3 dernières rencontres. Nice qui, au classement, bon, c'est du bien. Hein, effectivement, c'est niçois qui n'était pas à la place qu'ils ambitionnaient en début de saison. Nice est désormais 11e, 12e de Ligue 1 avec 23 points. Jonathan, qu'est-ce que tu retiens de la victoire de Nice?
C'est une victoire qui leur fait du bien. Alors, je suis toujours un petit peu sceptique quant à l'équilibre de l'équipe, notamment au milieu de terrain, même si là, ils ont été très bons. Écoute, je pense qu'ils ont joué contre un Metz qui a été en dessous de son niveau et que c'était pas un match d'une très grande qualité, malgré le fait que Nice ait mis 4 buts.
Bon, les gars, on va être honnête là. Ça peut se jouer maintenant, le combat de boxe. Ça peut aller très vite dans le premier round, donc on va le dire avec Morgan Mori. Première reprise, Morgan, Andy Ruiz Junior, Anthony Joshua.
Andy Ruiz dans son short doré, short blanc pour Anthony Joshua. C'est Andy Ruiz qui a pris le centre du ring pour l'instant dans ce combat. Première reprise, bien sûr, 25 secondes d'écoulée. Anthony Joshua qui est devenu plus humble, c'est lui qui le dit après cette défaite. Il s'est affûté, il s'est affiné. Est-ce qu'il va avoir la tactique pour répondre à Andy Ruiz devant ses 15 000 personnes dans cette arène construite pour l'occasion en Arabie Saoudite? 40 secondes dans cette première reprise. On s'observe pour l'instant. Andy Ruiz, jambe gauche avancée, jambe gauche également avancée pour Anthony Joshua. Joshua qui tourne autour son adversaire,
mais
toujours au centre du ring. Pas de coup marquant pour l'instant dans ce combat. Ce championnat du monde poids lourd, Andy Ruiz qui a 3 ceintures mondiales majeures autour de la taille, WBA, IBF et WBO, plus une ceinture mineure, la ceinture IBO. C'est parti depuis 1 minute et 5 secondes dans ce championnat du monde de boxe poids lourd. Anthony Joshua qui reste pour l'instant à distance, qui reste loin, qui essaye de faire parler son 1m98, d'aller chercher au corps, d'aller chercher au ventre d'Andy Ruiz. Pour l'instant, pas de coup marquant, n'a pas touché durement son adversaire. La moitié de cette première reprise, c'est maintenant Nicolas et toute l'équipe de l'After. Rien de marqué, rien de transcendant pour l'instant. On s'observe entre les deux hommes, 1 minute et 30 secondes dans cette première reprise. Joshua face à Andy Ruiz.
C'est normal, c'est le premier round, il fait parler son direct, il reste à distance. Les deux boxeurs, même s'ils sont déjà affrontés, ont besoin de reprendre leur distance respective.
Coach, c'est pour ça qu'en football, on appelle le round d'observation.
Voilà, c'est exactement ça, il est là, coach.
Ce qui est intéressant, ce qui est intéressant, c'est de voir Joshua attaquer, essayer de vraiment attaquer le corps de Ruiz, chose qu'il n'a pas assez fait lors du premier combat.
Anthony Joshua, Andy Ruiz, la revanche, Arabie Saoudite, Morgan Mori, première reprise.
Voilà, il entre dans la distance, Anthony Joshua, la droite puis la gauche, on fait travailler avec son bras avant, c'est le bras gauche, Anthony Joshua, bon début de combat, ça y est, il est entré un peu plus rapidement que Ruiz dans ce combat, dans ce championnat du monde poids lourd, la dernière minute de cette première reprise, l'arbitre, monsieur Pablon, est-ce que Anthony Joshua va être capable de gommer ses erreurs d'il y a 6 mois au Madison Square Garden? Est-ce que Andy Ruiz ne s'est pas pâté, est-ce qu'il n'a pas été happé par cette nouvelle notoriété comme on l'a déjà vu par le passé, comme par exemple Buster Douglas quand il a envoyé Mike Tyson au tapis à Tokyo et ensuite qu'il avait été expédié par Evander Holyfield. Fin de cette première reprise dans 30 secondes, Andy Ruiz toujours au centre du ring, Anthony Joshua qui, lorsque Andy Ruiz avance, essaye de donner de son bras avant, de son bras gauche encroché avec le jab. Pour l'instant ça reste un petit peu timide et voilà Andy Ruiz, ça y est, la première droite forte, elle est pour Anthony Joshua avec le bras arrière, il a déjà coupé l'arcade d'Andy Ruiz. Premier point marquant, l'arcade gauche de Andy Ruiz qui a explosé. Ça saigne déjà pas mal le long de la joue gauche du champion mexicain, américano-mexicain. Fin de cette première reprise dans 10 secondes. Voilà, c'est terminé. Et Anthony Joshua, premier coup dur en sa faveur. Il a coupé au-dessus de l'œil gauche Andy Ruiz. Fin de cette première reprise. Première reprise accordée, à mon avis, à Anthony Joshua.
19 pour lui. 19.
Premier droit, c'est le premier des
Effectivement. Ruiz, inédit également. Il n'avait pas saigné Andy Ruiz à Madison. Voilà. Mais il avait fini au sol déjà
au troisième
Joshua dans la troisième reprise avant de terrasser Anthony Joshua. Allez, on revient dans un instant. Nice, la victoire de Nice 4-1 ce soir face à Metz. Laurent nous attend au 32-16. L'after est là jusqu'à minuit. Coach Courbis, Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, à tout de suite.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit. After foot avec un fil rouge, c'est la boxe, championnat du monde poids lourd. Dans un instant on parle de la victoire de Nice face à Metz. Laurent, supporter Nice, nous attend au 32-16. Mais d'abord la fin de la deuxième reprise avec toi Morgan. Anthony Joshua touché à son tour.
Eh oui, une combinaison, il a doublé sa gauche Andy Ruiz et les deux hommes qui sont symétriques au niveau des coupures à l'œil gauche, à la paupière pour Anthony Joshua. Il a été bon dans l'anglais, le britannique dans la deuxième reprise, il semblait dominer les espaces mais il y a eu 2-3 séquences d'Andy Ruiz qui ont été extrêmement précises. C'est le début de la troisième reprise, les deux hommes ont été touchés, ont été coupés dans ce championnat du monde poids lourd. Troisième reprise,
c'est incroyable.
Encore 2 minutes et 40 secondes dans cette troisième reprise. Andy Ruiz semble avoir un peu compris le jeu d'Anthony Joshua. Joshua contrôlait les distances, les timings, mais Ruiz est en train de s'avancer, de gagner les 30 cm peut-être.
Il y a match, les gars, encore.
Mais ce qui est surtout surprenant, c'est que Joshua se fasse couper sur un crochet gauche de Ruiz. Et c'est le coup qu'il était censé travailler, tu vois, c'est de protéger.
Attends, je rappelle pour les gens qui nous écoutent que tu aimes beaucoup la boxe également, tu présentes un podcast avec Thomas Desson sur
Alex Arminet,
Ibrahim Assoum, effectivement, voilà, pour expliquer que tu as une petite légitimité quand même à parler de boxe, hein, pour ceux qui penseraient le contraire. Merci Morgane, on vient dans un instant avec toi bien sûr. Nice mène a battu 4-1 le FC Metz, doublé de Cyprien, Ganago et Pierre Les Melou. J'accueille Laurent au 32-16, supporter du gym. Bonsoir et bienvenue Laurent.
Salut Laurent, c'est un
coach Courbis, Jonathan McCarty et Ludovic Obraniak t'écoutent.
Comment allez-vous?
Bien, et toi?
Bah écoute...
T'aimes la boxe aussi un peu ou pas du tout?
De loin, je suivais ça il y a quelques temps.
Mais t'aimais bien Cyril Roll, mon pote, non?
Pardon?
T'aimais bien Cyril Roll?
Ouais, bah, bien
bon,
sûr.
Bon, bah t'aimais la baston alors, ça va.
Ouais, allez, vas-y Laurent, et attends, tu laisses parler Laurent. Vas-y.
Bah écoute, moi ce que je voudrais déjà en préambule préciser quelque chose par rapport au débat sur le GC Nice. Parce que depuis quelques temps, j'ai entendu 2-3 chroniqueurs parler d'un budget de Nice qui serait aux alentours de 100 millions d'euros. Et je précise que le budget de Nice cette année est de 52 millions d'euros, ce qui le place en 10e position en Ligue 1, parce que c'est un budget qui a été acté avant l'arrivée de Radcliffe. Donc ça, c'est important parce que on est certainement beaucoup plus sévère quand on parle d'un club à 100 millions d'euros qu'un club qui est à 50. Donc là, alors ça ira évidemment.
Laurent, juste deux secondes, t'inclus Ounas et Dolberg?
Oui. En fait, Ounas et Dolberg, c'est la vente de Seri et de Saint-Maximin qui avait été encore reporté.
Ouais, c'est vrai. En fait, t'avais eu des paiements échelonnés, en fait.
Absolument. Donc, en fait, c'est pour l'instant, on est encore sous les effets de l'ancienne direction qui, d'ailleurs, a tout fait pour pourrir un peu. Ils y sont arrivés en partie pour pourrir un peu ce changement de propriétaire. Donc, il n'y a pas de crise à Nice. Il y a simplement des. On est tellement aussi habitués. Moi, je vais prendre le côté un petit peu plus, disons, positif par rapport à pas mal de supporters niçois qui sont souvent très impatients. On est très habitués depuis pas mal d'années à voir Nice surperformer avec, selon le terme, un petit peu à la mode, tu vois, avec des classements plusieurs fois quatrième, une fois troisième, bref, dans la première partie de tableau, et alors que c'est un budget moyen de Ligue 1. Nice, c'est toujours le dixième budget depuis pas mal de temps. Attends, je termine juste. Mais je ne peux pas te dire que le jeu est bon, tu vois, que ça se passe bien en ce moment, il y a beaucoup de problèmes, mais de là à parler de crise ou etc.
T'as raison.
Tu vois, voilà.
Il y a deux différences par rapport au Nice de Lucien Favre ou de Claude Puel. La première, c'était qu'à l'époque, t'avais. Et je l'avais dit plusieurs fois, à mon sens, la cellule de recrutement la plus performante en termes de rapport qualité-prix. Aller chercher des Darius Vitanić, d'aller chercher des Jean-Michel Seri pour une poignée de cacahuètes au Portugal. Ils vous avaient fait des coups quand même qui
Ricardo
étaient
Pereira.
Assez. Ricardo Pereira, d'Albert, des coups qui étaient quand même assez exceptionnels.
Alors là,
tu les fais plus. Juste, attends, Laurent, là tu les fais plus vraiment, je trouve. Ça fait un moment où t'as pas fait un coup, tu dis ah ouais, ça a quand même de la gueule. Et juste, attends, pour terminer, le deuxième point, c'est je pense quand même que la différence majeur, c'est que Patrick Vieira, aussi sympathique soit-il, n'est pas un entraîneur du calibre de Lucien Favre et de Claude Puel.
Mais je suis d'accord. Parce que en fait, je pense que l'un des acteurs principaux de cette cellule de recrutement, c'était Serge Rocordier, qui était parti à Monaco pendant deux ans.
C'est vrai.
Et là, il est revenu. Donc, il est revenu il y a peu de temps. Donc là, on a de nouveau la même cellule de recrutement qu'il y avait lors des beaux coups dont tu parles. En ce qui concerne Patrick Vieira, je suis d'accord avec toi. Moi, je l'ai. Si tu veux, ce qui m'a un petit peu, là où j'étais tempéré, c'est que l'année précédente pour sa première année dans un grand championnat, enfin disons dans un championnat européen, il fait quand même septième avec très peu d'éléments offensifs, donc il fait une année, on va dire, bonne. Et cette année, effectivement, je suis assez d'accord avec toi, il y a beaucoup de problèmes, et je vais en citer un qui me semble primordial, c'est les deux mises à l'écart de Tamézé et de Walter. Mm-hmm. Parce qu'on a quand même deux demi-défensifs qui nous font cruellement défaut, ce qui fait que
on en a parlé plein de fois avec Ludo de ça.
Attends, et Tamézé, c'est quand même un joueur qui a montré son état d'esprit. Pour une fois qu'on a un jeune joueur qui refuse de partir à l'étranger, parce qu'il y a deux clubs, genre je crois CSKA Moscou, où il aurait certainement triplé son salaire. Donc pour une fois qu'on a un jeune joueur resté parce qu'il voulait bosser avec Vieira, c'est pour ça qu'il est resté, c'était le même poste. Et du coup, Vieira, je trouvais un peu sévère. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, de le mettre à l'écart pour un match ou deux, ça peut se comprendre pour une erreur de comportement.
T'as raison,
mais là, il est à l'écart depuis un mois ou deux. Donc, je pense que ça a dû faire un peu ricocher dans le vestiaire. Je crois qu'il y a des problèmes, visiblement, entre les joueurs et Vieira. Et puis, il y a certains choix.
Et surtout, aussi, Laurent,
qui sont discutables.
Avec Ludo, on le dit depuis des semaines. Pour moi, ce qui me pose problème dans les mises en place tactiques de Vieira, c'est la cohérence de son milieu de terrain. C'est pas forcément les hommes, mais c'est plus la disposition avec Cyprien, qui est lui devant la défense. Et le fait est que t'alignes jamais un vrai milieu défensif de métier. Et t'en as. T'as parlé de Tamézé. Oui, très bon. T'as parlé de Walter. Oui, très bon. Et je comprends pas pourquoi il est pas capable de ravaler un petit peu la bisbille qu'il a avec ses joueurs pour les mettre parce qu'il leur ferait vraiment du bien.
Absolument. Ouais, je suis absolument d'accord avec toi.
Vas-y, Ludo. Vous avez pas tort sur le fait que Patrick Vieira, il est pas très souple au niveau de ses idées. T'as l'impression qu'il a la dent dure contre certains. Alors après, s'il y a des problèmes dans le groupe, comme Laurent dit, en tout cas avec lui, le groupe est scindé en deux parce que moi j'ai vu quelques joueurs sur les buts venir lui taper la main. Tu vois, le groupe est peut-être aussi coupé en deux, je sais pas.
Pour revenir à Vieira,
il y a deux trucs qui me chagrinent. C'est, alors là, il pouvait peut-être pas faire autrement ce soir, mais le maintien de Dante, qui clairement ces derniers matchs est un vrai point faible.
Qu'est-ce
pour
qu'il
la
a comme autre choix
niçoise.
Finalement
Eh bien, quand Erel Sarr. Voilà, Erel Sarr.
Donc, t'es pas sur une défense à 5, du coup
Non, j'aime bien avec. Là, comme ça a été ce soir, puisque Lesmelou et Cyprien reviennent dans une forme qui d'ailleurs transfigure le visage de l'OGC Nice. Et moi, j'aimais bien la doublette sur le côté. Atal
Ounas.
Atal Ounas. Tu vois, j'aime bien que les deux puissent fonctionner ensemble. Ounas qui rentre sur son pied gauche pour s'ouvrir le jeu et Atal qui le dédouble. Et je préfère moi Atal quand il part de derrière que quand il est au milieu de terrain. Donc tu vois, cette doublette là, il faut absolument la garder parce que c'est un point fort. Au milieu, je trouve qu'à deux, il fonctionne bien. Et peut-être avec le petit Lusamba là qui alors peut-être pas sur le dernier match, mais celui d'avant à domicile avait été très très bon. Voilà, il y a des choses.
Pourquoi il le met pas? Ça aussi, c'est bizarre. Il le met pas ce soir.
C'est ça, ouais.
Alors
c'est
que contre Angers, il a été l'homme du match. Si je peux juste dire quelque chose sur Dante, faut pas être trop sévère parce que Dante a été blessé 2 mois et à 35 ans, tu reviens pas comme à 22 ou 23. Donc il faut peut-être lui laisser un petit peu de temps. Et si tu remarques les défaites de Nice octobre-novembre quand ils ont enchaîné leurs 6 ou 7 défaites là de suite, il y avait 3 joueurs majeurs absents qui étaient également absents à Saint-Étienne. C'est-à-dire Ounas, Erel et la charnière centrale, donc Erel et Dante. Mm-hmm. Je pense que Dante peut encore rendre des services. Faut juste lui peut-être, alors je suis pas sûr, mais lui laisser un petit peu de temps parce qu'il a été quand même 2 mois à août, septembre, octobre. Bon, alors peut-être que c'est dû à ça aussi.
À 5 peut-être, Laurent, mais à 4, moi je crois que
c'est vrai qu'il est quand même un
peu lent, Nice doit revenir à 4.
Et ils ont recruté un arrière-gauche, Alléluia, voilà. Alléluia. Depuis, on a recruté un arrière-gauche qui vient de la Lazio de Rome.
Ouais, on verra, parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps. On verra dans quel état.
Dans toute la discussion sur Nice, là, on pourrait dire 2 mots sur Atal, sur l'importance que peut avoir ce joueur, quelle que soit la façon de l'utiliser. Et là, il y a des blessures de partout, mais ce soir malheureusement j'ai peur qu'il se soit blessé bêtement.
Espérons
mais
en même temps
j'espère que ce soit pas gravement
sur une virgule.
Vous croyez que c'est les croisés ou pas?
Non, je pense pas. On verra. Merci Laurent d'avoir appelé au 32-16.
Merci à vous.
Tu reviens quand tu veux dans la terre, bien sûr. Nice, calendrier avant la trêve hivernale, déplacement à Brest le week-end prochain et puis réception de Toulouse. Donc voilà, calendrier plutôt favorable pour le gym pour revenir dans le top 10 de la Ligue 1. Morgane Maury, est-ce qu'on n'est pas en train de revivre ce qu'on a vécu au Madison Square Garden il y a 6 mois? Andy Ruiz fait très mal encore une fois Anthony Joshua.
Et peut-être Nicolas, parce qu'on avait l'impression qu'Anthony Joshua gérait avec son bras avant, son grand bras gauche, il a l'avantage de la longe sur son petit adversaire, sur le petit champion du monde Andy Ruiz. Mais les 15-20 dernières secondes de la quatrième reprise, il est entré dans la bagarre tête contre tête. Il était meilleur qu'Anthony Joshua, il a fait mal à son adversaire au Britannique. Et là on est dans la cinquième reprise, 1 minute et 17 secondes encore avant la fin de cette reprise, et Andy Ruiz Junior qui est plus entreprenant dans ce combat en Arabie Saoudite. Joshua a dominé le début de ce match, mais Andy Ruiz qui est de plus en plus entreprenant. Est-ce qu'il va être capable de faire parler sa vitesse de bras et son punch aussi, parce qu'il peut faire extrêmement mal, pourquoi pas. Il saigne toujours au niveau de l'œil gauche, dans le coin de l'œil gauche, le sang lui coule le long de la joue et ça ne le gêne pas pour voir arriver les coups d'Anthony Joshua. Et Joshua qui est sur le reculoir pour l'instant dans cette fin de cinquième reprise, encore 45 secondes. Andy Ruiz Junior dans son short doré, le short blanc d'Anthony Joshua, déjà du sang sur les deux shorts. Cinquième reprise, encore 40 secondes, et voilà Anthony Joshua enfin avec son bras arrière. Il l'avait montré une fois à la quatrième reprise qu'il est capable de faire mal, il l'a montré une fois encore. Il a le bras avant d'Anthony Joshua et qui touche le menton de Andy Ruiz, et les deux hommes qui s'attrapent, et l'arbitre monsieur Pablon qui va les séparer. Encore 20 secondes Nicolas dans cette cinquième reprise entre Andy Ruiz Junior, le champion du monde poids lourd, détenteur de 3 ceintures majeures, et Anthony Joshua qui veut essayer de récupérer.
Il est bien là Joshua,
ses 3 ceintures. Anthony Joshua, regard extrêmement lucide, simple, qui lucide en tout cas sur ses déplacements. Il essaye de ne pas se faire cadrer. Là il est dans un endroit difficile, dans l'angle du ring, et il essaye de s'échapper par des petits pas chassés pour vivre une fin de round tranquille. C'est la fin de cette cinquième reprise. Les deux hommes qui rejoignent leur coin.
C'est la cinquième, c'est ça?
C'est la fin de cinquième reprise.
Donc on est où niveau, pour l'instant, on est où au niveau des points, là, Morgan?
Tu veux mon comptage?
Moi, je mettrais 3-2.
Oui, 3-2, un légère avantage. 3-2 Joshua. Joshua qui a mieux démarré sur les deux premières reprises. Il était au-dessus, Joshua.
3-2 Joshua.
3-2 Joshua, voilà. On rappelle que ça va, les 12
rounds. Ce qui est intéressant de voir, c'est que sur les premiers rounds, ce que Joshua a très bien fait par rapport au premier combat, c'est de vraiment servir de son direct pour maintenir Ruiz à distance. Mais ce qui est terrible, c'est que Ruiz, dès qu'il arrive à casser la distance, et à salir un petit peu, à faire ce qu'on appelle du dirty boxing, il est redoutable. Parce que Joshua a gardé le même problème qu'il avait au premier combat, c'est que, et c'est un problème qu'il a eu toute sa carrière quand il affronte des boxeurs plus petits que lui, c'est qu'on dirait qu'il a le cul entre deux chaises. Est-ce qu'il se baisse? Est-ce qu'il se tient très droit? Et t'as l'impression qu'il veut se tenir très droit, ouais, et sa tête devient, ouais, une cible mouvante.
Est-ce, ouais, que le coup qu'il lui met là, le round précédent là, derrière l'oreille,
ah bah ça sonne,
que Ruiz met à Joshua
derrière l'oreille, c'est horrible. Ouais, en fait, pourquoi c'est horrible? Parce que tu te prends sur le menton, les lumières elles s'éteignent, c'est fini, il n'y a plus de discussion. Tu te prends le coup derrière l'oreille, t'es un petit peu sur des jambes en gélatine, quoi.
L'after revient dans un instant, mais sur une ensemble jusqu'à minuit. On va évoquer notamment les autres matchs de la soirée. Rennes, troisième victoire consécutive en Ligue 1. Rennes qui se rapproche du podium. L'épopée rennaise est relancée, Ludo.
Ah oui,
appelez-nous au 32-16. Appelez-nous au 32-16, supporter rennais, bien sûr, victoire face au SCO d'Angers. En revanche, qui glisse, troisième défaite consécutive. Appelez-nous également, supporter angevin. On parlera de Toulouse, de Combouré également. A tout de suite pour l'after.
RMC, l'after foot, Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak et coach Courbis. Je vous rappelle qu'on vit en fil rouge le championnat du monde de boxe poids lourd. Andy Ruiz Junior face à Anthony Joshua. Morgan Maury, avant qu'on parle de la victoire rennaise face à Angers, on en est où?
On est à la moitié de ce combat. Anthony Joshua qui fait des choses très simples: je touche et je m'en vais, mais attention au crochet de Ruiz qui a touché en début de sixième reprise, sous les yeux du rappeur Usher, sous les yeux de Canelo Alvarez, champion en 4 catégories différentes, des super moyens, notamment mexicain, qui est venu soutenir Andy Ruiz Junior. Ça part dans 20 secondes pour la 7ème reprise. Avantage pour l'instant sur nos comptages pour Anthony Joshua.
On rappelle que les deux hommes ont été touchés aux arcades respectives. Et bien sûr, triplé de Messi, Ludo, effectivement, tu me signales ça. Le Barça qui mène 5 buts à 2 face à Mallorca, alors qu'il reste 10 minutes à jouer encore dans cette rencontre. Griezmann a marqué également ce soir avec le FC Barcelone. Le Barça qui repasse devant le Real Madrid, qui s'est également imposé, on en parle tout à l'heure, avec Fred Hermel et nos trois autres drôles de dames. Rennes s'est imposé 2 buts à 1 face à Angers ce soir. Troisième victoire consécutive après avoir battu ça Saint-Etienne 2-1, avoir gagné à Metz en milieu de semaine 1-0. Rennes s'impose 2-1 face au SCO sur un doublé de Mbaye Niang. Coach, tu connais bien Mbaye Niang, tu l'es à Montpellier, le jeune Mbaye qui a grandi depuis.
Ouais, complètement.
Comment tu analyses cette série rennaise? C'est des victoires petites mais conséquentes, en tout cas pour la saison rennaise.
Ben, c'est une saison qui a quand même été particulière dans le sens que malheureusement, dès maintenant, l'Europa League est terminée. Il y a eu pas mal de changements entre les départs et les arrivées et des joueurs difficiles à remplacer. Un recrutement qui n'était pas terminé quand la saison a commencé. Une obligation pour Stéphane Julien, de mettre en place un 3-5-2 ou un 5-3-2 qui n'était pas les habitudes de la oui, saison d'avant. Des départs de joueurs comme Sarr, c'est pas facile à remplacer. Et là, maintenant, tout rentre un petit peu dans l'ordre, à l'image de Rafinha, qui est devenu de plus en plus intéressant depuis que Julien Stéphane a remis uniquement quatre défenseurs. L'année dernière, avec cette organisation à quatre défenseurs, elle était équilibrée avec Ben Sebaini, qui était un arrière central décalé sur le côté gauche, comme pouvait l'être Thuram en 98 dans notre équipe de France. Et ça faisait une équipe quand même très, très bien équilibré. Là, il y a quand même un joueur qui est devenu un très bon joueur et qui va encore progresser, c'est Kamavinga, qui est pour moi comme une recrue et un renfort. Je ne vois pas beaucoup de joueurs de ce niveau-là. Donc, je ne suis pas inquiet pour le stade rennais. Et n'oublions pas ce match en retard, qui n'est pas facile contre Nîmes, mais qui n'est pas impossible non plus. Et là, on peut voir aussi un Rennes trouble fête, capable de se battre pour les 5 premières places, et comme je le dis, pas obligatoirement pour la 5e.
C'est vrai les gars, offensivement, ça commence à être vraiment intéressant. Si Rafinha commence à tourner comme il le fait, 3 buts, 2 passes décisives ce soir face à Angers, on a Del Castillo qui bosse bien.
Mais c'est magnifique, je vais te couper. Cet après-midi, dans un match même assez important,
doublé.
Moshe Gladbach contre le Bayern, il a marqué un pénalty, il a marqué un but de la tête, il a marqué les 2 buts de ce match.
Il a fait la victoire dans le choc en Allemagne, on en parlait tout à l'heure avec Paulo Breitner. Adrien Hunou, on en parle peu, hein, c'est 17 buts en 2019, très précieux, très efficace. Mbaye Niang marque également de plus en plus, 7 buts je crois cette saison pour lui. Rafinha commence à faire les différences.
Et il y a des choix forts surtout.
Oui.
Regarde par exemple Clément Grenier qui est écarté,
oui.
Qui joue quasiment plus. Niagnon aussi. Il a fait des choix. Je pense qu'il s'est retrouvé un petit peu dos au mur à un moment, en se disant voilà, la saison semble un petit peu mal embarquée. Écoute, là pour l'instant ça marche. C'est une équipe qui a de la qualité. On sent un petit peu depuis quelques matchs qu'il y a une vraie personnalité qui se dégage de cette équipe. J'aime bien l'organisation. J'aime bien effectivement le fait de mettre Rafinha comme ça sur le côté. Je le trouve très efficace. J'aime bien le positionnement d'Ounou quasiment deuxième attaquant avec Mbaye Niang. Donc oui, c'est une équipe qui a de l'idée, qui a de la qualité. Après, est-ce que je les mets au même niveau qu'un Montpellier ou qu'un Saint-Etienne? J'ai quelques doutes. Je pense qu'ils sont quand même un petit cran en dessous parmi ces outsiders pour le podium.
T'es d'accord, les deux?
Oui. En tout cas, il fallait se relever de l'élimination en Europa League et de la série de défaites. Julien Stéphan est un jeune entraîneur, quand même, mine de rien.
Oui.
Et il fallait trouver les solutions. Tout le monde le voyait déjà mort, ou presque. Donc félicitations à lui déjà pour avoir trouvé
fait
des choix forts comme Jonathan l'a dit, le fait de peut-être accompagner Niang aussi qui souvent je le trouvais trop esselé en ce début de saison, le fait de lui associer Ounou lui fait le plus grand bien. Rafinha qui joue dans un ce soir ça a été un match
il s'est passé si tu me permets la même chose du côté de Strasbourg quand on a joué une partie de la saison avec Ajork tout seul devant, tu avais l'impression qu'on pouvait jouer 6 mois sans marquer un but. Et pareil pour Rennes. Là, maintenant, avec Ounou, qui est allé épauler Niang, Motiba, qui est allé épauler à York, quand on voit jouer Strasbourg, on a l'impression qu'il peut marquer à tout moment.
D'autant plus que ce sont des joueurs qui sont à l'aise dans le rôle de pivot. C'est-à-dire que Niang, sur le premier but, c'est lui qui vient à la tête pour dévier pour Rafinha et qui est à la finition. Donc, ce sont des joueurs qui. Catalyse un peu l'attention des défenseurs centraux. Et un joueur comme Ounou qui est dans un registre différent, lui, il est dans la malice. Tu vois qu'il est, c'est quelqu'un qui arrive à faire les bons déplacements et qui se sert justement de l'impact de Niang pour pouvoir tourner autour de lui. Et du coup, je trouve, comme le dit
c'est très
Roland,
complémentaire.
À deux devant, du coup, ça marche mieux. Et Rafinha, c'était un match fait pour lui. C'est un garçon, on sent qu'il a des jambes, qui a des capacités non seulement de dribble
et de
percussion. Rennes est de nouveau dans le coup, mais Rennes nous a habitués aussi à être cyclique.
Il y a un petit détail que tu as pu connaître dans les vestiaires que tu as occupé, c'est qu'il y a 4 ou 5 matchs de ça, il y a un pénalty pour Rennes, et donc c'est pas Rafinha qui doit le tirer, et les joueurs, notamment Niang, lui font cadeau de ce pénalty. Oui. Et bizarrement, il a marqué déjà. Et ça a été un déclic parce que depuis ce penalty, il est redevenu un petit peu celui qu'on a connu la saison dernière et qui était très brillant.
Attention, Guillaume, supporter René au 32-16. Attends, Guillaume, patiente. Salut, bienvenue dans l'after, Guillaume. Salut, Guillaume.
Salut, Guillaume.
Oui, bonjour tout le monde.
Guillaume, attends deux secondes parce qu'il se passe beaucoup de choses là en Arabie Saoudite. Le combat poids lourd, championnat du monde. Joshua Ruiz, Morgan Mori.
Andy Ruiz qui est en train de faire sortir de son plan Anthony Joshua, de la bagarre pure et dure, encore à corps, tête contre tête. Et Andy Ruiz, c'est le meilleur dans ce domaine-là face aux Britanniques. Et pourquoi pas renverser la situation. Joshua domine, mais Andy Ruiz, dans ces situations de corps à corps, dans ces moments où c'est très chaud, sa vitesse de bras fait des merveilles. Et il a assaisonné sur un enchaînement gauche-droite, encore une fois. Il touche avec la gauche Anthony Joshua. Andy Ruiz qui arrive à toucher l'ancien champion du monde, le Britannique. Il termine fort cette 8e reprise. L'américano-mexicain, le champion du monde, l'homme qui a les 3 ceintures. Et Joshua qui le chambre lorsque le gong envoie les deux hommes dans leur coin. Andy Ruiz a peut-être lancé l'opération reconquête dans cette 8e reprise. Il est en train peut-être de faire péter les plombs à Anthony Joshua.
Ouais, enfin, il y a quand même 5 rounds à 3 pour Joshua, je pense. Ouais. 5-3 voire ça, ou même peut-être 6-2.
Non mais
il faut le mettre KO. Joshua, il est largement en avance au point.
Non mais comme l'impression qu'il apprend pas de ses erreurs. Pourquoi il reste au corps à corps?
Parce qu'en fait parce que Ruiz a sali le combat. Ruiz, à chaque fois que Joshua l'accroche, il lui met un petit coup derrière, et là ça lui a fait un petit peu disjoncter, et 2-3 fois il est venu avec l'idée de lui arracher la tête, et là il a vu que c'était dangereux. Donc je pense que ses entraîneurs dans le coin vont lui dire c'est tu t'accroches. Quand l'arbitre te dit de te séparer, t'essaies de mettre quand même un petit coup en douce, t'essaies de lire le combat.
Voilà.
Un peu comme toi, tu vas essayer de faire quoi. Tu veux
non, moi, j'ai pas besoin,
Voilà, c'est reparti pour la 9e reprise, c'est ça. Hein, 9e reprise entre Joshua et Ruiz Morgan.
C'est quoi ton pointage, Morgan?
Pour l'instant, alors, j'ai 3 reprises. 3 reprises pour Anthony, pour Andy Ruiz, pardon. 5-3. Et le reste pour Anthony.
Ouais, ah, on a le même.
3
en
faveur d'Anthony Joshua. Allez. Contre Andy Ruiz. Il reste 4 reprises dans ce championnat du monde.
Guillaume avec nous, supporter rennais. Guillaume, 3e victoire consécutive, celle de rennais. Du jeu également. Des joueurs qui sont enfin en train d'éclore à l'image de Rafinha. Dans quel état d'esprit tu es, toi, Guillaume, après 16 journées pour Rennes, hein, qui a un match en retard et qui est déjà revenu dans la course à, eh bien, à l'Europe?
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut, rebonsoir.
Salut, Guillaume.
Eh bien, je suis dans une. Comment dire? Je suis dans une position, je dirais merci au public, rennais. Parce que on a connu pendant 25, 30 ans des fêtes, des plein de choses compliquées. Et sur un an ou deux, on a connu des victoires, la Coupe de France, la Coupe d'Europe, et jamais le public a lâché le Stade Rennais. Et ce que je pense que la force depuis 2-3 ans du Stade Rennais, c'est que je pense que c'est difficile. Les gens sont derrière Stéphane. Ils pensent que tout peut arriver. Et avec des effets voilà, de mode ou pas, tu peux passer de la 5e, 6e place. Et je pense que bah, voilà, j'ai envie de dire ce soir merci au Stade Rennais, au public rennais, parce que je pense que c'est ce qui fait depuis 3-4 ans l'ADN du club. Voilà. Indépendamment des joueurs qui jouent à un niveau correct ou pas, on sent un truc. Voilà. Je veux dire ça.
Un truc s'est passé clairement, Guillaume, la saison dernière avec l'aventure européenne, la 8e de finale du jeu et puis cette victoire en finale de Coupe de France. Tout vient de là, quoi. Rien n'attendait depuis très longtemps de plus être un peu l'élève maudit de la Ligue 1, Ludo. Et ça a été déclencheur. On verra cette saison hein, si ça se confirme, ça se prolonge.
C'est tout le problème de ce club-là, c'est qu'il a souvent été cyclique. Aujourd'hui, bien sûr, notre auditeur, je ne sais plus,
Guillaume,
nous le rappelait, Julien Stéphane bénéficie d'un crédit auprès des supporters rennais, et à juste titre, parce que c'est vrai que ce qu'il a fait à peine arrivé, ramener comme ça un trophée alors que Rennes court derrière depuis tellement d'années maintenant, voilà, je trouve qu'il est tout à fait normal que ce jeune entraîneur ait des hauts et des bas. Il apprend sa carrière, il apprend son métier, et
moi, pas l'enterrer et le porter au nu pour autant non plus. Voilà,
non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de con, on ne l'a jamais porté au nu, mais ce qu'il a fait, il a quand même récupéré un club qui était en grande difficulté avec Sabri Lamouchi, et il en a fait quelque chose de très cohérent avec un titre au bout. Donc ça, c'est à féliciter.
Une qualification européenne.
Après, le passé, c'est le passé. Et c'est vrai que ces derniers temps, il devait être jugé aussi sur le fait qu'il était moins inspiré. Heureusement pour lui, c'est quelqu'un qui est assez intelligent pour se renouveler. Il se renouvelle, il fait des choix forts. Et il est justement récompensé.
Coach, t'es d'accord, ce Julien Stéphane, c'est vrai qu'il a été extrêmement loué son dernier, peut-être à l'excès parfois, et à l'excès inversement critiqué en début de saison.
Oui, mais bon,
faut être nuancé sur
c'est un métier que
oui, j'ai mais c'est vrai.
Donc on attend un
t'as
peu.
Connu ça, ouais.
Et c'est vrai que c'est quand même un cas particulier, parce que tout en étant jeune, c'est un jeune expérimenté. Ça fait, malgré son jeune âge, ça fait une dizaine d'années et même une douzaine d'années qu'il est entraîneur. Alors entraîneur de l'équipe réserve de Rennes, ok, d'accord, mais c'est quand même entraîneur. Donc le métier, tu le connais. Le vestiaire, eh ben tu sais comment le gérer. Et en plus, eh ben lui aussi, il a le droit de progresser. On progresse à tout âge. Ces derniers temps, paraît-il, il était bon, allez, en danger. Je me disais, bon, j'espère que c'est des conneries qu'on entend, parce que c'est difficile de faire mieux que ce qu'a pu faire ce garçon-là depuis une douzaine de mois.
Oui, il a à peine 39 ans, Julien Stéphane, très jeune entraîneur. Merci Guillaume d'avoir appelé au 32-16, excellente soirée à toi. Nous reviendrons dans un instant, bien sûr, gros programme encore. On va débriefer la victoire du PSG à Montpellier 3-1 en fin d'après-midi. Débrief du match de Neymar, de Mbappé, notamment les choix de Tourelle. Beaucoup de réactions aujourd'hui sur les réseaux et sur le hashtag RMC Live. Appelez-nous supporters parisiens, appelez-nous supporters montpelliérains, et bien sûr, les drôles de dames avec la défaite tout à l'heure de la Juve face à la Lazio Rome. L'Inter est donc toujours en tête de Serie A. Tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'After Foot. Rennes.
Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
RMC.
Vous comprenez ce que je veux dire ?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'afterfoot.
Nicolas Jamain.
Et oui, l'after est là, bien sûr, jusqu'à minuit à la radio sur RMC, à la télé sur RMC Sport News, avec Jonathan Bacardi, avec Ludovic Obraniak et Coach Courbis. After un peu spécial, puisqu'en fil rouge, nous suivons le championnat du monde de boxe poids lourd. Andy Junior face à Anthony Joshua dans un instant. Le programme de l'after pour l'heure. Le débrief de la victoire du PSG, bien sûr, avec notamment les appels, appelez-nous 32-16. Également, les drôles de dames, les défaites du Bayern Munich, les défaites de la Juve ce soir, et de City également. En Angleterre, les drôles dames seront avec nous. Bien sûr, Cyril nous attend au 32-16 supporters parisiens. Mais d'abord, Morgan Maury au commentaire de ce combat entre Andy Ruiz Jr. et Anthony Joshua. 11e reprise.
Encore une minute dans cet avant-dernier round. Andy Ruiz va avoir besoin de mettre Anthony Joshua sur les fesses pour conserver ses ceintures. Je vais vous prendre une image. J'ai l'impression que par moment, Anthony Joshua, il nous fait du Vladimir Klitschko. Il en fait très peu. Exactement. C'est extrêmement méthodique. Un coup, je me désaxe. J'essaye d'éviter au maximum les moments chauds. Les moments chauds, justement, Andy Ruiz en a très peu à se mettre sous la dent lorsqu'il est dans la distance et qu'il peut envoyer
donc
son
pour l'instant, Morgan, oui. Pour être très clair, au pointage.
8-3.
Au pointage,
Joshua RMC, ouais. Est largement devant.
Oui, avantage.
Pour que Andy Ruiz conserve ses ceintures, il faut qu'il allonge ou qu'il mette KO. Ouais,
est-ce qu'on est proche, Morgan, d'un Pacquiao Mayweather?
Pacquiao.
On est pas, au niveau de l'escroquerie, on n'est pas.
Non, c'est pas meilleur. C'est largement meilleur que Pacquiao Mayweather. Largement.
Mais en tout cas, là, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on voit Ruiz et Joshua, qui sont donc deux des quatre meilleurs poids lourds du moment, il y a quand même une galaxie d'écart entre ces deux-là et Tyson Fury et Deontay Wilder.
Qui s'affronteront le 22 février prochain, justement. Voilà donc la fin de la 11e, Morgan, avec toi.
Oui, Anthony Joshua qui tourne autour de son adversaire, il ne laisse aucun espace à Andy Ruiz et il regagne son coin. Fin de cette 11e reprise avec le sourire. Joshua, 3 minutes à tenir et normalement les ceintures reviendront en Grande-Bretagne pour Anthony Joshua. Andy Ruiz va devoir créer un exploit pendant
3.
Les 3 dernières minutes. Ça va être la bagarre forcément pour l'Americano-Mexicain, ce qui va être capable d'allonger le champion britannique, c'est la question. Une minute, on est dans les coins et c'est reparti pour les 3 dernières minutes de ce championnat du monde poids.
Si tu ramènes les ceintures de cette manière-là, ça va jaser quand même. Hein.
Ouais, bon après il a fait son combat, hein, Joshua. Hein, c'était pas simple.
Ah, il a fait son combat. Il allonge son jab et il se désaxe.
Ouais, mais ça fonctionne. Tu sais quand on a pris une belle il y a 6 mois. Bon. À la surprise générale, t'as envie de revenir tranquillement,
humblement,
de récupérer tes ceintures.
Faut que tu laves l'affront avec panache.
Ah, c'est ton esprit ça, ouais. Panache. Peut-être qu'il y aura une belle, hein, du coup, hein. On en parlera tout à l'heure, bien sûr. Tiens, Cyril, les supporters parisiens, est avec nous au 32-16. Salut Cyril.
Bonsoir messieurs.
Et bienvenue dans l'after du samedi soir. Je rappelle la victoire du PSG 3-1 face à Montpellier. Paredes avait ouvert le score contre son camp à la 41e. Neymar, après un rouge de Pedro Mendes, marque sur coup franc. Mbappé, 2 minutes plus tard. Et Mauro Icardi à la 81e. Succès 3-1 du PSG. 39 points après 16 matchs joués. Qu'est-ce que tu retiens de cette victoire parisienne? Évidemment, elle est à nuancer. Notamment au regard des 73 premières minutes.
Bah forcément un sentiment hautement contrasté, parce que comme tu le disais Nicolas, bon bah oui les 3 points sont là. Ce qui est évident, c'est que l'expulsion de Pedro Mendes a été un élément létal pour Montpellier, puisqu'en 2 minutes le score a été complètement chamboulé, donc les 2 buts ont été marqués. Donc moi je retiendrai une forme de pragmatisme quand même du PSG qui pour une fois a su entre guillemets sentir l'odeur du sang et se précipiter entre guillemets et faire les choses de manière clinique pour régler la situation. Donc je retiendrai ça comme aspect positif, avec le côté un peu pugnace quand même de Neymar qui nous a fait une version un peu moderne de Jekyll and Hyde. Une première mi-temps absolument catastrophique, enfin, tout à l'envers. Ouais. Et une deuxième beaucoup plus éclairée, beaucoup plus judicieuse entre guillemets. Maintenant, alors nonobstant ce fait, et puis les sorties précoces de Ghana et de Kimpembe, je veux encore une fois mettre le doigt sur le point qui fâche, c'est-à-dire les errances tactiques de Thomas Tuchel qui nous a encore bricolé un milieu en mousse. Avec un Paredes, mais un Paredes qui est juste pitoyable.
C'est le frère du joueur qui joue avec la sélection argentine.
Ouais, ou peut-être son cousin, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est une escroquerie, hein. Enfin c'est une escroquerie mais sur
place. C'est sûr, c'est quand même hallucinant de le voir jouer avec l'Argentine où il fait des matchs très corrects et de le voir jouer avec le PSG.
Cyril,
je pense le problème c'est peut-être l'entraîneur, tu vois.
Pause, Cyril, tu restes avec nous et on développe cette performance du PSG, le milieu de terrain parisien notamment. Dernière minute d'espoir pour Andy Ruiz face à Joshua, Morgan Morin.
Ah, il donne tout ce qu'il a, le champion du monde en titre. On est contre les cordes d'Anthony Joshua qui vient poser les gants sur le ring déséquilibré. L'arbitre qui va faire repartir le combat, 42 secondes. Andy Ruiz, regard déterminé, du sang qui coule sur sa joue gauche. Il a envie d'allonger Joshua, ça se voit. Il avance, mais ce sera probablement trop tard. Encore 30 secondes. Voilà un exploit à la Rocky. Le Rocky de la frontière. Andy Ruiz, Anthony Joshua qui tourne autour de sa proie. Il l'a tenu au lasso pendant ses 12 reprises. Anthony Joshua, il a évité les moments chauds. Il le tient au bout de son gant. Il va retrouver ses ceintures. Anthony Joshua dans 20 secondes. Anthony Joshua, il est au centre du ring, il fait travailler son bras avant et derrière avec un crochet du bras arrière, son bras droit. Andy Ruiz qui lui fait, allez, viens là, viens en terminer, viens te battre. Il fait des gestes avec ses gants. Andy Ruiz et Anthony Joshua, bien sûr, qui ne vient pas. Les 10 dernières secondes, c'est terminé pour ce championnat du monde poids lourd. Rob McCracken, l'entraîneur d'Anthony Joshua, qui serre le poing, qui saute de joie. Joshua qui sourit à peine. Certains, à mon avis, d'avoir fait le travail pour récupérer les ceintures de champion du monde. Andy Ruiz qui se fait retirer le protège-dents par Manny Robles, par ses coachs. Et Eddie Hearn, le promoteur d'Anthony Joshua, qui vient lui taper dans la main, pris dans les bras par son coach. La tête basse d'Andy Ruiz, ses bébés, comme il les appelait, ses ceintures. Est-ce qu'elles vont repartir en Grande-Bretagne? C'est fort possible. La décision des juges dans une poignée de secondes.
Tiens, c'est marrant là, sur le Direct Studio, Paul Casati nous dit Joshua il a gagné à la DD, à la Didier Deschamps.
Il a raison. Morgan a fait une super comparaison, c'est il a gagné à la Klitschko.
Ouais, voilà, sobrement,
pas beau, hein, de
pas beaucoup de panache
sur l'adversaire, pas de panache,
un jab très propre. Ce qui est très important, c'est le fondamental. Il a maîtrisé les deux fondamentaux de la boxe, le coach, direct et les déplacements.
Comment tu l'as vu ce combat, toi?
Je pensais pas voir. J'ai vu un combat que je pensais pas voir comme ça. Donc je m'imaginais, moi, que ça allait durer 3-4 rounds,
ouais, pareil,
un maximum. Je m'imaginais un Joshua qui allait être comme un diable en train de mettre KO Ruiz.
Mais non.
Et là, non.
Mais c'est normal que ça se passe comme ça. Je te rappelle, Roland, que Joshua s'est fait mettre KO pour Andy Ruiz. Et quand tu te fais mettre KO, t'as forcément, d'une part, l'appréhension de revenir boxer. Surtout si rapidement après, parce que c'est quand même une concussion, c'est 6 mois après, c'est quand même très risqué. Et d'autre part, contre le mec qui t'a humilié dans ton premier combat, qui devait te révéler aux yeux du public américain. Mais c'est normal qu'ils soient un petit peu sur le reculoir.
D'accord, un petit peu oui.
Là, c'était beaucoup.
Ouais. Non, mais je pense que, tu vois, nos amis, côté footballeur, hein, Ludo et coach, ils auraient voulu plus de panache. Ils auraient voulu voir un Joshua laver la front new-yorkais.
Là, je trouve qu'il a joué en 5-3-2 avec 5 milieux défensifs et 2 numéro 8.
Tu sais quoi, quand j'ai vu la pesée, je savais à quoi m'attendre. Voilà. Je savais à quoi m'attendre. Tu savais que Joshua, dans certaines déclarations de nos consultants, tu sentais qu'il y avait quand même une certaine crainte, une certaine peur, malgré le fait qu'il se soit super entraîné, perte de poids, il est affûté. Tu sentais psychologiquement, il n'était pas tout à fait remis. Et puis Ruiz, tu sens que voilà, il est venu, il a touché, voilà.
C'est 7 millions de dollars à New York.
C'est le nouveau riche.
Et là, on est sur du 20,
c'est le nouveau riche.
10 millions contre 80 millions.
Voilà, nouveau riche.
10 millions là?
Il a pris les sous, il a pas forcé son talent. Il
fallait la décision, de Morgan.
Bah, il faut la connaître.
Steve Gray scores at 119-109. All three scorecards go to the winner by unanimous decision. Et la fierté combattante de Londres, Anthony Joshua, nouveau champion du monde, WBA, IBF et WBO. Les cotillons qui tombent sur le ring et Andy Ruiz Jr. qui se tape le visage avec ses poings. C'est la danse folle autour d'Anthony Joshua. Il avait trop peur de perdre sa légende, de tout perdre, Anthony Joshua. Il s'en sort sans grand panache, mais il arrive à s'en sortir face à Andy Ruiz. Mais donner un match 3, une trilogie à ce garçon après ce qu'il a montré lors du premier combat, ce serait mérité.
Il est comment là, Ruiz? On ne voit pas sur nos images, en tout cas. On verra comment il va réagir. Andy Ruiz Junior, donc dépossédé ses 3 ceintures mondiales.
Il est heureux. Il a pris 8 kilos pour le match, c'est-à-dire qu'il est venu, il voulait pas être ridicule, il a pris son oseille, il aura fait un troisième match. Bah bon, moi c'est, franchement, je suis très 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 déçu du comportement de ce garçon qui a eu une chance d'accéder au titre alors que c'était même pas prévu, qu'il l'a pris le titre et qu'il l'a pas respecté. pour moi, un mec qui vient de là où il vient, il y a combien de mecs qui aimeraient se battre
Non, mais en fait, quand tu fais des sports de combat, il n'y a pas de mignonnerie à voir. Faut se faire de la thune ou rien. Ça s'appelle le prize fighting. C'est comme ça l'expression qui est consacrée en anglais. C'est-à-dire que tu combats pour l'argent. À partir du moment où tu mets, tu peux perdre des espérances de l'espérance de vous, même crever dans une cage ou sur un ring. Si tu prends pas de thune, il n'y a aucun intérêt.
Il a mis à l'abri sa famille.
C'est fini. Voilà. C'est fini. Tu sais, c'est normal.
Coach, ne fais pas la revanche.
Bah, il va pas refuser la thune qu'on lui propose.
Aujourd'hui, même en football, je crois qu'il y a des clubs qui combattent pour l'argent.
Ah oui, aussi. T'as raison, coach.
Effectivement. Voilà, en tout cas, il a pris 20 millions de dollars de combat.
C'est le plus gros titre au monde auquel il a eu une chance d'accéder.
Le panache, il le défend même pas correctement.
Arrête tes conneries.
Voilà, merci Morgane, excellente soirée à toi. Anthony Joshua qui récupère ses 3 ceintures mondiales. La suite, on verra. On attend avec impatience le combat de 2 autres poids lourds, évidemment. 2 des 4 meilleurs, 22 février. Tyson Fury, le Gypsy.
Ah, ça sera autre chose. Hein.
Face à Deontay Wilder, l'américain.
Ça sera autre chose.
Allez. Paris, c'est donc imposé.
Là, c'était l'Europa League. Là, il y a la Ligue des Champions qui arrive en février.
On verra.
Effectivement. C'est vrai que lui, il est bon.
Cyril est toujours avec nous. Ça va, Cyril? T'es toujours avec nous?
Toujours là. Merci Cyril pour le.
Parlons du PSG, les gars. Je voulais qu'on recentre un peu sur. Parce qu'il y a beaucoup de réactions sur Neymar, évidemment. Les deux.
Notre auditeur voulait parler de Tourelle. Des choix de Tourelle. On était là-dessus.
Alors, c'est ce qu'on va faire. On va écouter Tourelle tout de suite. Ouais. Réaction après le match. Analyse de Thomas Tourelle de la victoire parisienne 3-1 face à Montpellier. Écoutez le coach du Paris Saint-Germain.
On a montré une réponse avec qualité et avec aussi mentalité. Et c'est une belle victoire. C'est mérité. Et c'est pas facile. PSG n'a pas gagné ici depuis 4 ans, 5 ans. Et voilà, on a fait ça avec deux joueurs blessés. Avec les circonstances très difficiles, et je suis super content et je dois dire que je suis très très content avec cette victoire et les manières.
Alors, il est content du résultat, mais pas seulement de la manière. Cyril, je ne sais pas comment tu réagis au propos de Thomas Tourelle.
C'est assez consternant. Consternant. Qui s'estime heureux, en effet, il peut être heureux puisque l'histoire du match aurait clairement pu être tout autre. Montpellier, moi je salue la prestation de Montpellier, hein, franchement, c'est ils ont entamé le match comme il fallait, en mettant une dimension physique importante. Comme d'habitude, dès que ça devient physique, on n'est pas à l'aise. Donc voilà. Maintenant, moi je salue vraiment, c'est le pragmatisme que je salue du PSG. En tout cas, certainement pas une adaptation tactique ou justement un esprit tactique. Moi c'est ce que je déplore depuis notamment le début de la saison. Hormis de très très rares épisodes, Thomas Tourelle nous a jamais démontré justement une mainmise tactique, des innovations, une adaptation. Donc concrètement, il va faire all-in. Pour moi, il va faire all-in en Ligue des Champions, tout en sachant que Pochettino est maintenant sur le marché.
Exactement.
Et moi, je regarde ça d'un œil forcément attentif.
Laurent, je te demande, il y a une petite théorie. Depuis que Leonard est revenu, ma petite théorie, c'est qu'il va refaire le même coup qu'il a fait avec Antoine Comboiré. C'est qu'il va mettre un grand coup de chausson à Thomas Tourelle cet hiver et qu'il va prendre Pochettino en janvier.
Tu penses qu'on reverra plus en 2020?
En fait, j'étais sûr qu'il le ferait si Paris avait perdu contre le Real Madrid. Ça lui aurait servi d'excuse. Mais je pense quand même que c'est l'idée que Leonard a en tête.
Coach, je suis pas d'accord avec toi.
Je suis pas d'accord dans le sens que
Pochettino a Allegri, hein.
Que je pense qu'il va pas prendre le risque, justement, de donner les rênes à un nouveau coach en janvier, tout en sachant que le parcours, finalement, et même si après on a le droit et on a raison quand on se plaint de qu'on voit pas ça, qu'on voit pas si la gestion de ci, etc. Mais les résultats sont quand même là. La qualification est liée, la place de premier est liée. Et si par exemple il arrive un Pochettino et un Allegri qui justement ne réussissent pas, on dira donc à Leonardo qu'il aurait fallu garder Tourelle.
Mais c'est ce qu'il a fait. Quand il vient Antoine Comboiré, son premier.
Alors c'est différent. Comboiré est arrivé avant l'ère Qatari.
Et puis je crois que Comboiré venait justement d'échouer dans la qualification de la Coupe d'Europe de l'époque.
Non, moi je suis d'accord avec toi. Je pense pas que Leonardo prendra ce risque. Maintenant, moi j'en veux quand même à Tourelle, parce que pour moi déjà il foule au pied l'histoire de mon club. Quand je vois le cas de Cavani, moi j'en suis malade de voir comment cette légende, ce type qui incarne pour moi le club de toute l'ère qatari, c'est le joueur qui incarne les valeurs.
Attends, sur Cavani,
sur ce qu'il dit Cyril, quand tu dis qu'il incarne l'RQSI, je pense même qu'il a réussi le fait de dépasser qu'il incarne le PSG au-delà de l'RQSI. Alors que Zlatan, c'est vraiment PSG-QSI. Cavani, c'est vraiment il est rentré dans l'histoire longue
globale du Paris Saint-Germain.
Mais Zlatan était un mercenaire. Cavani, on le voit bien, c'est un type. Il n'y a pas un mot plus haut que l'autre. Il respecte l'équipe. C'est un joueur de très très grand standing. Combien de joueurs accepteraient sa situation? Vous avez vu Mbappé comment il a réagi lorsqu'il est sorti?
Alors Mbappé, c'est deux fois. C'est bien que tu le dis, Cyril. Je voulais en parler. Mbappé face à Nantes, quand il sort, il est pas content. Là, il sort à la 91e minute de jeu. Le PSG mène 3-1 face à Montpellier. Thomas Tuchel vient le saluer, le remercier pour sa prestation, et lui, il repousse quasiment Thomas Tuchel, en fait. Il veut pas ça. Il est pas content de sortir. Je sais pas.
C'est la frustration du champion.
Quelle position? Alors voilà. Parce que c'est pas forcément condamnable comme comportement, Ludo, en fait.
Non, pas du tout.
Ludo. Attends, Ludo, vas-y. Ton avis là-dessus. Parce que certains disent, pour être très clair, il a la grosse tête, Mbappé, maintenant, c'est le boulard. Il doit accepter de sortir aussi à la 91e.
De mon poste de consultant, je suis pas ravi de ce comportement. C'est l'accumulation de plusieurs petites choses, en fait, fait que ce garçon était d'une fraîcheur, d'un sourire, de plein de choses. Après, il lui est tombé énormément de choses dessus. C'est pour ça que je tempère au maximum ma pensée vis-à-vis de Mbappé. N'empêche que ce qu'il fait au Ballon d'Or, là, où il envoie valser le mec, tu vois ce que je veux dire ? Il y a un petit soupçon d'arrogance qui commence à arriver, qui est déplaisant aux yeux des supporters, je pense, et même de nous consultants. Après, moi, j'ai été joueur, râler en sortant, je l'ai fait, tu vois, donc je vais pas non plus lui jeter la pierre. Garcia, chaque fois qu'il me faisait pas rentrer ou que je sortais, pareil, j'étais jamais content, donc je vais pas lui taper dessus maintenant. Après, moi, c'est sur je crois que l'aventure Tourelle a atteint
ça, c'est terminé.
C'est mort. L'histoire, elle est morte. Il faut passer à autre chose le plus vite possible. Parce que ce PSG-là nous propose la même chose depuis maintenant trop longtemps. Et que moi, je suis admiratif de du talent quand il est au service du collectif. Or là, le talent, il s'exprime seul. Et parfois, il éteint même les mecs autour de toi. C'est-à-dire que les meilleurs matchs du PSG, pour moi, ils ont été sans Neymar et sans Mbappé. Parce que tu sens une équipe beaucoup plus homogène, qui a beaucoup plus envie d'être ensemble, qui a plus. Dès qu'ils sont là, les deux, ils vampirisent et ils éteignent tout ce qu'il y a autour. Alors, bien sûr, le coup franc, il est extraordinaire, c'est fantastique, mais putain, combien de fois dans la première mi-temps, il a pris le ballon, il a essayé de. Tu vois, il n'y a pas d'osmose de. Il n'y a pas de jeu collectif. Le jeu collectif, c'est ça qui t'emmènera loin. Toutes les équipes qui vont dans le dernier carré, il y a un minimum de jeu collectif.
Et là, mais c'est le coach, mais c'est justement le coach.
Oui, c'est ça, c'est pour ça. Pour ça que je te dis que l'histoire, elle est morte. Parce que il se passe rien. Ça fait plusieurs fois que tu t'aperçois que c'est la même chose et c'est pas corrigé. Il y a rien qui est corrigé.
Coach Corbis, je sais pas si je prolonge tes propos, Ludo. Si le PSG en reste là, il va dans le mur en Ligue des Champions. T'es d'accord avec ces propos?
Tu te rends compte que
je finis.
C'est quand même ce soir. On se dit quand même clairement les choses. Si Pedro Mendes il revient avec son cerveau en deuxième mi-temps. Je sais pas si le Paris Saint-Germain ne serait-ce que revient au score.
Ouais. Non, Montpellier était en contrôle. Montpellier était vraiment en contrôle.
Il y avait zéro.
Vas-y, Roland, sur l'avenir à court terme du PSG. On pense forcément au mois de février, au mois de mars.
Le football réserve tellement de surprises que c'est pour ça que c'est très passionnant. Mais c'est vrai que tu me demandes mon avis, je le dis suffisamment. Je trouve vraiment aberrant certaines façons de voir les choses, notamment cette histoire de nous expliquer avec l'effectif de Paris Saint-Germain, quand on a la chance d'être entraîneur et d'avoir cet effectif-là, et de nous expliquer que la meilleure formule, c'est obligatoirement un 4-3-3, mais ça doit être une des formules, le 4-3-3, mais tu dois te permettre aussi de que tes adversaires subissent les quatre offensives sur cinq que tu peux, que tu peux avoir. Donc, il y a des explications que je comprends pas. La saison dernière, par exemple, je l'ai vu travailler sur un schéma où il y avait trois arrières centraux, où il y avait quatre milieux et où il y avait trois attaquants. Mais dans ces trois attaquants, c'était Neymar qui était en poste dans l'axe numéro 10 derrière Cavani et Mbappé. Mais ça me paraissait être redoutable. Et chaque fois, je me disais, j'aimerais pas être l'équipe d'en face. Et là, parce qu'il y a une situation de dépannage dans un match où il manque les trois monstres et que c'est comme quand tu joues à 10 contre 11. Donc tu as mis Marquinhos, tu l'as, c'est pas son poste mais ça fait rien. Gay il fait le match de sa vie. Verratti il va et là ça c'est la solution
les petits coups de pinceau comme ça
pour gagner la Champions League. Ben non, tu as fait ce dépannage là. Bravo, mais tu as un effectif si tout le monde est en forme que tu peux te permettre
de faire plus que du dépannage
de mettre des équipes redoutables où j'aimerais moi ne pas être les adversaires ou alors il me faudrait vraiment de cacher
Merci Roland. Et une bonne nuit parce que on va te libérer Roland. Excellente fin de soirée.
Bonne fin de soirée.
Bravo pour Roland, il nous a fait 3h30 là avec nous là. C'était un plaisir. 4h.
À demain matin.
Attends Roland, attends la pause pour partir parce qu'on est également à la télévision. Et t'es là demain matin. Merci Roland, excellente soirée à toi l'after. Et là,
salut à tous.
Jusqu'à minuit bien sûr avec Jonathan Ricardi, avec Ludovic Obraniak. Je vous rappelle que Anthony Joshua a récupéré ses 3 ceintures mondiales, bien sûr, chez les poids lourds en battant Andy Ruiz Junior au point à l'unanimité. Juge. Dans un instant, les 4 drôles de dames au programme. On est ensemble jusqu'à minuit. Les défaites du Bayern Munich, de Manchester City et également de la Juve, la première de la saison. A tout de suite.
RMC. L'After Foot. Nicolas Jamain.
Oui, l'after est là jusqu'à minuit avec Jonathan Bacardi, avec Ludovic Obraniak, bien sûr, et avec nos 4 drôles de dames pour terminer l'after du samedi soir. Et une énorme actualité partout en Europe, Angleterre, Allemagne, Espagne, Italie, tout le monde sera là. Mais on va démarrer par l'amitié germano-anglaise, anglo-germanique, puisque nous accueillons dans l'after ce soir Paulo Breitner et Julien Laurence. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Salut Nico, salut les gars.
Il y a de l'ambiance derrière vous là.
Fermez la fenêtre les gars.
Ouais, il y a le courant d'air là.
Là c'est encore Julien qui est encore je sais pas où là, dans des endroits bizarres.
Je suis juste devant le Ivy Asia, qui est un des restaurants qui vient d'ouvrir à Londres, qui est plutôt sympa.
Ouais.
Donc, ça va la vie.
Ouais, bonne soirée, ce soir qui s'annonce.
Tranquille.
Qui s'annonce.
Les ceintures reviennent chez vous là, Julien là. Les ceintures mondiales, poids lourd. T'es au courant?
Ah oui, les ceintures, bien sûr.
Ah mais ils ont surtout le champion linéal. Ce qui est le titre le plus important, le champion linéal est anglais, c'est Tyson Fury.
Et ils ont tenu Joshua qui a récupéré cette 3 ceintures mondiales il y a quelques minutes. On l'a vécu sur RMC. Mais t'as vécu également un derby de Manchester City face à United. Passionnant. En tout cas, il y a une victoire. Et c'est une victoire de United, 2 buts à 1, je rappelle. Hein, Rashford ouvre le score pour les Red Devils sur penalty à la 23e. Martial à la 29e, but que je trouve superbe. Trop de souris.
Comme souvent avec Martial.
Et quand il marque, c'est beau. Et Otamendi avait réduit l'écart à la 85e minute de jeu. 14 points d'avance, c'est ça un peu le bilan pour Liverpool sur City. Liverpool qui a gagné aujourd'hui également, Julien.
Tout à fait, à Bournemouth 3-0. Encore une fois, sans vraiment avoir à forcer leur talent. Ils ont plutôt bien géré. On a vu une passe décisive magnifique de Mo Salah. Une talonnade dans la surface pour Naby Keita qui a été très bon dans ce match-là puisqu'il a aussi rendu l'appareil à Salah sur le troisième but. C'était du bon Liverpool mais sans plus. Et ça a mis la pression forcément sur City qui donc recevait United dans la foulée en fin d'après-midi. Et c'est vrai que, en tout cas moi je trouve, hein, on en a souvent parlé dans l'émission, que cette équipe de City elle a perdu beaucoup de fluidité dans son jeu ces dernières semaines, qu'elle a perdu énormément de confiance avec le ballon. Même si elle se crée des occasions, elle a beaucoup de soucis aussi dans l'efficacité face au but. Je trouve que les latéraux par exemple n'apportent plus rien du tout, quasiment plus rien du tout, que ce soit à droite ou à gauche. Benjamin Mendy par exemple aujourd'hui était sur le banc des remplaçants, c'est Angelino qui l'a remplacé. Angelino c'est un bon joueur, mais c'est pas un joueur exceptionnel. C'est en tout cas pas du niveau d'un Benjamin Mendy qui serait à 100%. Donc j'ai du mal à comprendre certains choix de Guardiola aussi. Et puis surtout, je trouve que c'est encore très décevant dans le jeu pour City, qui s'est incliné 2-1 dans un derby qui finalement ils auraient sûrement pas mérité de gagner, même pas de faire match nul, je pense, parce que United de son côté a a parfaitement mis en place son plan de jeu. C'était ce qu'il fallait faire. Ils ont su jouer en compte comme il fallait. Rashford, comme ces dernières semaines, a été très bon dans l'utilisation du ballon, dans la façon dont il a percuté. Ouais. Ouais, et puis voilà, ils ont il y a pas de au milieu de terrain, par exemple, c'était Fred et McTominay, c'est peut-être pas du niveau de Bruyne et Gundogan par exemple, mais ils ont fait le travail comme il fallait, ils se sont battus pour l'équipe et dans l'état d'esprit, j'ai trouvé United très très bon, bien meilleur que City.
Ludo, t'as vu le match également. City dit bye bye au titre en Premier League.
Ouais, c'est surtout après la puissance offensive de City est pour moi toujours la même. Même si tu as raison, au niveau des latéraux, il y a moins de qualité en termes de centre, en termes de prise d'initiative. Mais clairement, pour moi, le problème il est défensif ce soir. City a laissé le début de match, en tout cas la première mi-temps. C'était porte ouverte, quoi, tu vois, avec des joueurs.
C'est trop facile,
ouais. Ben ouais, et avec des joueurs de la qualité de Martial, de la vitesse de Rashford. Ils ont été quasi absents. Alors, Fernandinho était derrière, non?
Défenseur central, encore une fois.
Bon, voilà. Pour moi, le problème, clairement, c'est que à City, t'arriveras jamais à passer ce cap qu'ils veulent passer, en tout cas en Ligue des Champions, parce que derrière t'es trop fébrile.
Tu crois pas non plus à Gabriel Jesus, hein, Ludo, hein?
Ah, bah alors lui non, sûrement
non,
pas.
Non,
sûrement
Jesus pas. Y croit pas.
Je l'ai dit ici à maintes reprises, même Fred pour moi c'est meilleur que Gabriel Jesus.
Pas Fred Hermel, Fred le Brésilien.
Je le dis, je le redis, et pour ceux qui n'ont pas compris, pour moi Fred en QI football c'est 10 fois supérieur à Gabriel Jesus. Au moins il arrivait à bonifier les autres autour de lui. Mais ce joueur là en tout cas, j'aime pas du tout. On l'a compris.
Il manque de maturité dans son jeu, tactiquement. Même si Guardiola l'a quand même fait immensément progresser.
Le Brésil, je le vois encore là.
Avec le Brésil, Tite en a fait son fer de lance quand il prend en main la sélection du Brésil.
Le mondial aussi.
Il est exceptionnel.
Pas
sur le mondial, il n'est pas exceptionnel.
Non, je te parle.
Avant, quand il prend
la sélection brésilienne, si le Brésil se remet la tête à l'endroit, c'est avec un Gabriel Jesus qui est installé au poste de numéro 9 à la surprise générale et qui est exceptionnel au début. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Mais il a eu une période de aller, je dirais, 6-8 mois, ou notamment en sélection en Angleterre, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas trop. Julien est mieux placé pour le dire.
Il a
6-8 mois. Il a eu
une très bonne période.
Ouais.
Il a eu une très bonne période chez nous aussi. Après, c'est dans les matchs comme celui d'aujourd'hui où tu te rends compte à quel point Agüero peut leur manquer.
Ouais.
Pas simplement dans la finition, mais aussi parce qu'il est capable, avec une demi-occasion, de marquer un but, parce qu'il est aussi meilleur dans la construction du jeu, même si c'est pas non plus un joueur qui participe énormément à la construction. C'est pas Firmino, mais il est quand même beaucoup plus important que Gabriel Jesus. Et après, quand en plus, si Jesus n'est pas dans un bon jour et qu'en plus Sterling est très bien pris comme il a été aujourd'hui par Wan-Bissaka, bah forcément, il te reste plus grand chose. Il te reste un Bernardo Silva qui, moi, je trouve, perd encore beaucoup trop d'énergie à défendre. On l'a vu, c'est lui d'ailleurs qui concède le penalty sur Rashford pour le premier but. Pour moi, il a rien à faire là. Il a rien à faire à défendre sur Rashford dans sa propre surface de réparation et il perd de la lucidité après quand il a le ballon dans les 30 derniers mètres adverses. Il y a plein de choses dans cette équipe qui finalement ne vont pas et j'ai du mal à comprendre comment Guardiola, qui pourtant est complètement obsédé par son équipe, par le football, par la tactique, par les détails, oui, mais on arrive à un point où aujourd'hui, t'as Firmino qui joue en défense centrale alors qu'il ne devrait jamais jouer là. Ils auraient dû y penser bien avant qu'ils avaient passé de couverture dans l'axe.
Fernandinho,
la défense, il y avait un problème pour la porte. Fernandinho, le problème quand tu l'as pas au milieu de terrain, c'est que Rodri, c'est un très bon joueur de ballon. Il est très élégant, il est très beau à voir jouer, mais il n'a pas de vis. Et défensivement, il n'est pas du tout au niveau de Fernandinho, qui pourtant a 34 ans.
Mais j'aurais préféré, tu vois, en plus, le cas Mahrez. Parce que Riyad Mahrez, à chaque fois qu'il joue, il est excellent. Donc tu vois, j'aurais préféré même ce soir voir Sterling en pointe et Mahrez de l'autre côté.
Par contre, tu parlais d'Aguero tout à l'heure, Julien, il y a quand même un truc moi qui me fascine, c'est qu'au final j'ai l'impression que Guardiola a peut-être convaincu, je sais pas si c'est le mot adéquat, mais a fait en sorte qu'Aguero reste plus longtemps en Angleterre. On se rappelle qu'il avait fait beaucoup de déclarations en disant qu'à 28 ans il voulait se barrer et retourner jouer à Independiente. Ça fait un moment où on l'a plus entendu parler de ça.
Bah, il a signé son nouveau contrat la saison dernière là, dont il lui reste encore 18 mois. Et après, ça fera 10 ans qu'il est au club. Et là, il partira, il retournera, comme tu l'as dit, à Independiente.
Alors qu'avant, il avait dit que c'était à 28 ans max, il voulait faire ça.
Ouais, effectivement. Je pense que par son caractère, déjà, le fait qu'il habite tout seul, loin de son fils Benjamin et de sa famille qui est en Argentine, c'est vrai que 10 ans à Manchester, sous la pluie, j'aurais j'aurais pas mis ma maison dessus. Mais effectivement, il fera ses 10 années et puis après il rentrera au pays.
Merci Julien.
Ciao Julien.
Excellente soirée.
Bonne soirée, hein, mon pote. Hein.
Messieurs, je précise également.
Merci, j'y vais, je vous raconterai.
Le Tottenham de Mourinho a gagné 5-0 ce soir contre Burnley. Hein. C'est la plus grosse victoire de Mourinho depuis janvier 2015 en Première Ligue. Voilà. Et que Chelsea a été battu par Everton. 3-1 au classement. City est donc 3e à 14 points de Liverpool. Ludo. C'est bon, c'est fait.
Je te l'ai dit que c'est plié. Je te l'ai dit, voilà. Ça fait 2 semaines que je te le dis.
Et cette semaine, ils sortent en Ligue des Champions.
Pas grave. Mais c'est pas grave. Parce que
tu veux pas dire ça.
Mais c'est pas grave.
Il a raison, Ludo.
Faut faire gagner.
Attention, Hervé Salzbourg.
L'objectif, c'était l'année dernière. La Première Ligue.
Ouais, mais ça ferait tâche quand même.
Ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas gagné.
Effectivement, priorité, Première Ligue pour Liverpool, bien sûr. Voilà pour l'Angleterre. Bonsoir, Paulo Breitner.
Bonsoir Nico.
Salut Polo. Plaisir de t'accueillir dans l'After. Bon, on va bien. Nico Détroit sur Direct Studio nous dit: Polo, Tourelle, je te le ramène en Volkswagen en Allemagne quand tu veux. Cadeau pour l'exclamation. Phil, je passe Damit. Traduction. Bon courage à vous.
Ça tombe bien.
Attends, Polo.
Laisse-le répondre à ça, Jonathan. Vas-y, Polo.
Vas-y.
Bon. Si tu veux, moi j'ai un vrai problème. Bon, je me rappelle quand même qu'avec Daniel, on a écrit un livre sur Thomas Tuchel. Et en fait, donc ça fait 18 mois que quelque part il ne m'intéresse plus, Thomas Tuchel, parce que je n'ai jamais vu depuis son arrivée au PSG le Thomas Tuchel que j'ai connu en Allemagne. C'est-à-dire, moi, tout ce qu'on nous avait dit sur Thomas Tuchel, c'est son caractère extrêmement, extrêmement fougueux, etc., ou qui s'engueulait avec tout le monde, y compris avec les joueurs. Eh bien, depuis le départ, moi, j'avais dit, si on le prend au PSG, donne-lui les clés du camion et laisse-le faire depuis le début. Et au bout d'un moment, une fois que le groupe explosera complètement, eh ben, tu lui diras, rentre chez toi. Là, je ne l'ai jamais vu parce que j'ai vu un Tuchel très gentil dès le départ en conférence de presse. Je vous rappelle les trois premiers mois où pour moi, c'était vraiment, vraiment de la fumée médiatique. Où on a dit oui, il y a ceci, les grands joueurs, c'est pas quelqu'un qui est comme ça. Et comme par hasard, aujourd'hui, dans cette deuxième saison, ça va un peu moins bien, lorsque vous l'appelez, parce qu'en presse française, vous appelez ça la calinothérapie, c'est fini. Moi, c'est ce Thomas Tuchel que je voulais voir. Et je ne l'ai jamais vu. C'est-à-dire qu'il y a un côté diplomatique qui me fatigue depuis 18 mois, donc il ne m'intéresse plus du tout, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le Thomas Tuchel que je voulais voir, moi, mais bon, voilà.
Ben voilà. Voilà pour le chapitre Thomas Tuchel. La calinothérapie, c'est terminé.
Je le récupère sans problème en Allemagne.
Hein, ça, ouais, tu le prends au Borussia, ah, oui. Un retour, non, je sais pas.
Non, ça va être
compliqué. Ça va mieux.
Il le vole au Bayern, non?
Bah, il le souhaite au Bayern, mais c'est pas la priorité des priorités. C'est un peu compliqué au Bayern en ce moment, de toute façon, parce que vous savez qu'il y a un changement à la tête de la direction. Et puis, encore une fois, je le répète, la priorité des priorités, elle est en Angleterre. On vient d'en parler. C'est à Liverpool, sauf que il est pas libre.
Ouais, ça reste pas d'arriver, hein.
Ah oui, ça, c'est compliqué.
Ça va très vite dans le football.
Ils veulent Klopp au Bayern?
Ah, oui.
Tu l'entends, toujours.
Ah oui, mais c'est le rêve du Bayern, là, maintenant. Polo, match. Au sommet, Borussia Mönchengladbach, Bayern Munich, le Borussia, leader surprise de Bundesliga, a battu le Bayern 2-1 ce soir. Perisic ouvre le score pour le Bayern et réaction. Et là, pour nous, bon, c'est beau, hein, ça paraît un peu improbable pour certains, un René a mis un doublé, Rami Bensebaini, penalty à la 93e et un but juste avant.
Et il est bon, plus globalement, il est bon sur l'ensemble de la saison,
ouais.
Ou c'est juste un match comme ça? Polo.
Bah déjà il est pas toujours titulaire, donc c'est Oscar Wendt normalement qui est l'international danois qui est normalement titulaire, mais là il est en train de prendre sa chance et il fait son match à l'image de l'équipe. Encore une fois, je voudrais dire que c'est pas forcément le Borussia Mönchengladbach qui gagne, mais c'est plutôt le Bayern qui perd, parce que la première mi-temps a été dominée de la tête et des épaules, et c'est exactement le même scénario qui s'est passé le week-end dernier à Leverkusen. Et de toute façon, c'est ce qui se passe avec le Bayern globalement depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'il faut un nombre incalculable d'occasions pour le mettre au fond. Et écoutez, la première mi-temps, c'est une catastrophe, c'est-à-dire c'est même pas un duel de haut de classement de Bundesliga. Le Mönchengladbach à domicile a été complètement dominé. On va encore dire que j'attaque un peu trop les Français, mais Thuram et Pléa ont été catastrophiques, notamment Pléa qui aujourd'hui a la tête dans le seau. C'est pas possible. J'ai même été surpris de sa titularisation. Et pour vous montrer les seules choses positives qu'ils ont fait les deux, c'est qu'on les a vus en défense à 70 mètres de leur position favorite, c'est-à-dire devant le but adverse.
Bon, Thuram, quand même décisif, hein, il provoque un penalty. Il joue très bien le coup d'ailleurs. Il laisse traîner les pieds.
C'est surtout la faute de Kimmich et de Ravi Martinez cumulé.
On est d'accord. On est d'accord. Donc c'est vrai que pour beaucoup en Allemagne, il n'y a même pas pénalty. Mais au-delà de ça, c'est extraordinaire ce que fait Mönchengladbach, parce que c'est une équipe qui n'est pas la plus belle d'Allemagne au niveau du jeu et du contenu, mais c'est une équipe qui, à l'image de son coach Marco Rose, va chercher les points, y compris dans les arrêts de jeu. Ils font exactement la même chose en Europa League, demandé à la Roma ou à Besiktas. C'est une équipe qui ne renonce jamais. Et ça, je trouve ça assez extraordinaire en ce moment. C'est compliqué pour le Bayern parce qu'ils sont aujourd'hui à 7 points de Mönchengladbach et à 6 de Leipzig.
Mais septième surtout, pour ce soir,
ils sont septième, ils sont sortis, des listes européennes à l'instant où on se parle évidemment. Mais surtout, c'est que l'année dernière, ils ont que 3 points de plus que 3 points de moins que l'année dernière à la même période. Donc on ne peut pas dire c'est pas grave, ils sont pas si loin que ça, etc. Sauf que il y a beaucoup de tous les gros sont en haut, excepté Fribourg. Tous les hauts sont et donc on se dit bah ça peut venir de n'importe quel côté. Et donc le Bayern va devoir journée après journée et ben cravacher pour revenir en haut du classement, ce qui à mon avis n'est pas si évident.
Et Polo, il va se passer quoi du coup au Bayern pendant la trêve?
Disons que deux défaites à la suite, ça c'est très difficile au Bayern Munich officiellement. Ouais. Bon, déjà le coach a été énervé évidemment Hansi Flick, parce que lui il en a marre de voir 50 occasions et puis ça rentre pas au fond. Alors évidemment tu te retrouves quand t'es au Bayern et que tu perds deux matchs à la suite, de toute façon tu es fragilisé officiellement. Tout le monde est derrière Hansi Flick, mais tu sais, c'est toujours la petite phrase mais quand le Bayern perd 3 petits points, et donc on va au moins voir ce qui va se passer jusqu'à la trêve hivernale. Ce qui est sûr, c'est que le Bayern doit remporter ses 3 prochains matchs. Ils ont de la chance d'avoir un calendrier relativement facile. N'oublions pas qu'à la 16e journée par exemple, il y a un Dortmund Leipzig qui risque d'être un très très important.
Alors ouais, tiens, Polo, Leipzig, on peut en parler. Leipzig, prochain adversaire de l'Olympique Lyonnais mardi soir, match décisif pour la qualif pour les 8e de Ligue des Champions. 5 victoires consécutives, victoire 3-1 contre Hoffenheim, avec encore un doublé de Timo Werner.
Bah, c'est
pas hyper rassurant pour l'OL, ça, ouais.
C'est une équipe qui tourne super bien en ce moment. Moi, je le dis tel que je le pense. Alors, je me suis fait avoir comme beaucoup de journalistes allemands. Je pensais que Dortmund allait vraiment être la tête d'affiche cette année de la Bundesliga. Et puis finalement, t'as le troisième larron Leipzig qui est là, qui a son nouvel entraîneur évidemment Nagelsmann. D'ailleurs, n'oublions pas les 2 premiers du classement. Ce sont les 2 stars du football allemand au niveau des coachs. C'est Marco Rose, évidemment, qui arrive de Salzbourg, et c'est Nagelsmann qui était transféré de son ancien club.
Rappelle-nous ça,
c'est
son football âge,
de l'avenir.
32 ans.
Imaginaire. Il est plus jeune que Jonathan McCarthy, t'imagines?
Bah ouais.
mais ce qui est très très intéressant surtout, c'est que l'équipe joue bien. Il y a un turnover. Nkunku était pas titulaire cette fois-ci. Et puis Timo Werner, quand il est comme ça, c'est difficile de l'arrêter. Faudrait-il encore qu'il le fasse systématiquement et à tous les matchs? Donc ils sont un peu sur un nuage en ce moment. Ils en profitent. Ils sont à 1 point de Mönchengladbach. Moi, je le dis surtout, il faut surtout voir qu'ils ont 6 points. D'avance sur le Bayern, et on se rappelle du match match contre Leipzig, contre le Bayern à l'aller, où ils avaient été complètement dominés en première mi-temps et ensuite ça s'était fini sur un 1-1. Je pense que nous allons pas forcément une énorme surprise en Bundesliga, mais je pense qu'on va avoir une deuxième partie de saison où ça va être extraordinaire.
Et pourquoi pas Leipzig champion d'Allemagne?
Dortmund revigoré aussi, non, Polo?
Vas-y.
Ouais, alors c'est évidemment 5-0, ça tourne, etc. Le problème, c'est que Düsseldorf, il y a 8 joueurs à vocation défensive, ils ont mis le bus de départ, ça a pas tenu. Dortmund, c'était comme on veut le voir tout le temps, réparation.
On fait encore ça en Allemagne, Polo, on met encore le bus, ça arrive.
Quand t'es faute sur Düsseldorf, mais alors c'est dommage qu'Abib soit pas là, parce que c'était Friedel Funkel, le coach, qui est l'ancien
de l'anciens.
Qu'il a eu à l'Eintracht, et c'est vraiment dommage parce que genre on aurait pu en parler, mais c'était là, c'est l'un des anciens qui jouait.
Ok, Polo, merci Polo. Excellente soirée à toi.
Tant que tu ne parles pas de Robin Doot, Polo, tout va bien.
Bonne soirée Polo. À très vite dans l'after, bien sûr. Dans un instant, Fred Hermel pour la Liga, les victoires du Real et du Barça, et surtout Simone Rovera, la première défaite de la saison de la Juve ce soir sur la pelouse de la Lazio Rome. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Jusqu'à minuit avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, bien sûr. On déroule le fil de nos matchs européens après l'Angleterre et l'Allemagne face à l'Italie et à l'Espagne. Bonsoir, messieurs Fred Hermel et Simone Rovera.
Hola, chicos.
Salut, les gars.
Oh, Fred, il a
bonsoir. Bonsoir,
Fred.
Simone.
Fred, tu nous entends?
Oui, je suis là.
Oh, tu es bas.
T'es loin, hein.
T'es loin, Fred.
Je sais pas.
Faut demander au réalisateur de pousser le bouton.
Ouais, il s'appelle Toto.
Vas-y, chauffe, Marcel.
Chauffe, Toto. Vas-y, chauffe.
Marcel.
On va commencer par la Serie A, parce que l'événement, ce soir, désolé, Fred, hein, c'est la défaite de la Juve.
C'est un honneur.
La défaite de, toute façon, ça peut déraper. Hein. Simonet, la Juve a perdu. Dérapé. Ça y est. Premier match de la saison, première défaite pour la Juve, battue par la Lazio. 3-1 ce soir. Bon, Rome, c'est pas non plus le dernier client de la saison en Serie A. Mais quand même, ça fait tâche. Je rappelle que Ronaldo avait ouvert le score. Luis Felipe, Milinkovic-Savic et Caicedo ont permis à la Lazio de battre la Juve 3-1. Justifié, logique?
Plus que justifié pour moi, plus que logique, même si pour la première 30 minutes, voilà, pour la première demi-heure, on avait vu une belle Juve, vraiment une très belle Juve qui dominait dans les jeux, qui était percutant, qui créait des occasions. Après, il y a eu un petit fait des jeux qui a tout changé, et c'est la blessure de Bettencourt, qui n'était pas titulaire en début de la saison. Il devient petit à petit un joueur important pour Maurizio Sarri. Ce soir, il a expliqué, c'est déterminant, c'est indispensable. Et la sortie de Bettencourt a changé tous les équilibres de la Juve, qui était plus lente à la manœuvre, qui n'a pas bien finalisé certaines occasions, qui a trouvé à petit un Cristiano qui avait démarré très bien, devenir un peu moins... un peu moins solide dans sa participation au jeu, un peu moins vite, et la Juve au final s'est retrouvée avec une attention qui diminuait minute après minute, et c'est pas un hasard que la Juve, qui généralement a toujours été une équipe très solide et très attentive, a pris un but dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, une de ces buts qui change tout. C'est vraiment un match qui a été décidé quand même par des épisodes, parce que la Juve qui casse un but à la dernière minute de la première mi-temps, ça change les choses. Dybala qui, sur une erreur du dégagement du gardien, il n'arrive pas à cadrer et il tire sur les gardiennes, il n'arrive pas à trouver le but et tire sur les gardiennes, et 3 minutes plus tard, il y a le deuxième but de la Lazio. Il y a les cartons rouges des Cuadrado, oui, sur une action de contre où Sarri avouait on a tout raté dans la position dehors la surface. C'est une action offensive de la Juve, une contre, et la Juve était totalement déséquilibrée. Donc dans les épisodes, la Juve a vraiment fait beaucoup d'erreurs à niveau individuel, et je pense qu'il y a certains joueurs qui on verra beaucoup moins d'ici qui vont partir. Emre Can, Bernardeschi, catastrophique. Bernardeschi ce soir, très mal pour moi aussi. De Ligt, qui avait fait très bien sur le dernier mois, et ce soir a fait un gros pas en arrière. Et la Lazio, on connaît la Lazio. Si tu les laisses du terrain, ils sont clairement la meilleure équipe italienne en contre. La Juve a fait 60% de possession, tu peux même faire 90% face à la Lazio et tu peux perdre. Et ce soir, c'était un scénario comme ça.
Et c'est étonnant qu'on n'ait pas vu Adrien Rabiot sur un match comme ça. Avec la blessure de Samuel Khedira cette semaine. Il était blessé?
Non, Rabiot revient des blessures.
Okay, autant pour moi.
Non, revient des blessures, il n'est pas 100%.
Il était sur le banc
mais,
quand même.
Ouais. Oui, mais je pense que Rabiot, on peut recommencer à le voir
en janvier.
Des champions face dans du match que pour la Juve a aucune signification, parce que déjà première de son groupe, donc ouais. Elle doit retrouver vraiment de la condition aujourd'hui, et Rabiot, ouais, c'est un peu un mystère pour la Juve, parce Simonet, qu'on les voit pas. On
le
voit
mystère,
pas.
C'est pas un mystère, c'est que c'est un mec qui a pas joué du tout la saison dernière, donc oui, forcément pour reprendre le rythme, à mon avis, tu ne verras pas avant janvier.
Mais il faut qu'il arrive, parce que demain Bettencourt va passer les examens. On va voir si la blessure est grave ou pas.
Khedira est blessé, ouais.
3 mois sans Khedira, ça commence à devenir une situation compliquée. Et Emre Can, il est totalement pas concerné par les projets. Je dirais que chaque fois qu'il rentre sur le terrain, il les fait sans envie, avec seulement dans la tête l'idée de partir en janvier. Après qu'il a les choix de cet été de le sortir de la liste de la Ligue des Champions. Donc aujourd'hui, il y a une vraie émergence au milieu de terrain. Et dans l'après-match, Sarri disait on pourrait essayer Cuadrado ou Bernardeschi ou Ramsey dans le rôle de relayeur. C'est-à-dire que la Juve cherche vraiment de bricoler au max, et pour être l'équipe avec l'effectif meilleur de la Serie A, on se retrouve dans une situation un peu compliquée, ouais, du coup, au-delà du classement.
Ouais, bon, c'est pas grave, il y a rien de dramatique pour la Juve, hein. Deuxième, non, 2 points de l'Inter leader.
Il est content, Simonet, là.
Oui, il est content. Bah oui, il est content.
Non, mais
au-delà de ça, arrête, t'es content à vous.
T'y crois ou pas, Simonet?
T'y crois à vous, Simonet?
C'est l'année ou jamais, là, Simonet.
Non, c'est pas l'année jamais. Pour l'Inter, c'est les premières années d'une nouvelle phase du projet. Et les propriétaires Suning sont hyper puissants. Ils ont investi énormément d'argent. Cette année, pour la première fois, ils ont dépassé les 400 millions de budget total. Donc, c'est un club qui est en train de faire un gros pas en avant. Et ça, c'est les premières années de l'époque Conte. Personne demande à l'Inter de gagner les titres, même en interne. La seule chose qu'ils demandent, c'est de chercher d'aller plus loin en Ligue des Champions et d'arriver, d'augmenter, on peut dire, les classements, améliorer les classements de la saison dernière quand ils sont arrivés quatrième. Et attention, parce que la Lazio, ce soir, il est à 3 points de la Juve seulement. Donc, la Lazio, en silence, elle est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Petite bémol de la journée, il faut les raconter.
Très vite, vas-y.
Un partout de Napoli et la situation de Carlo Ancelotti devient toujours plus compliquée.
Aucune victoire depuis la 8e journée, on en est à la 15e. Ouais. Ça commence à être compliqué pour Carlo.
C'est historique. Je pense depuis 10 ans, il y avait une série si négative des résultats de Napoli. Ouais.
Dur pour le Napoli, hein. 7e de Serie A, hein, déjà à 12 points, la 3e place. Justement, transition toute faite. Ciao Simone, merci.
L'atmosphère n'est pas non plus au beau fixe.
Bah, et Carlo, il souffre, hein, Fred. Hein.
Oui, alors on en parle un autre jour parce que j'ai plein de trucs à dire sur les Ligue 1, il reste 3 minutes. Non mais sérieux, parce que là, aujourd'hui, c'est passé plein de choses.
Voilà, bah, et en même temps, des trains qui arrivent à l'heure, mais des beaux trains, des magnifiques trains qui brillent, bien lustrés, le Barça, énorme face à Mallorca avec un triplé.
Le but de l'année, Fred.
De Messi.
Vous voulez que je vous parle de quoi?
Barça, du triplé de Messi,
du triplé de Messi.
Griezmann et Suarez.
Du but de Suarez ou de la deuxième passe décisive de Ter Stegen cette saison. Parce que c'est un truc de malade. On va commencer par le plus beau. C'est quand même le but de Suarez. Alors c'est une talonnade piquée à 2,50 m du but. C'est un but extraordinaire de Suarez. Enfin franchement, c'est difficile à décrire.
Fred.
Pardon?
La construction du but.
Bien sûr, il y a la construction collective.
Frankie de Jong, magnifique.
On a vu un très bon Barça collectif ce soir. Enfin, mais la finition de Suarez. Et en fait, le Barça vient de mettre sur les réseaux sociaux un but dont je me souvenais pas, de Kluivert, qui est quasiment calqué sous le maillot du Barça, calqué sur celui de Suarez, ou plutôt le contraire. Donc ça, c'est vrai que Suarez, ils se sont fait plaisir ce soir les Catalans. Messi, 3 buts avec une facilité de sa patte gauche, mais hallucinante. Et puis, on va dire un mot de Ter Stegen, parce que vous savez, il est extraordinaire dans les buts. Ça, je vous l'ai déjà dit. C'est
meilleur gardien du
Oblak,
monde. Hein.
Ça dépend. Hein, c'est Oblak. Une semaine, c'est Ter Stegen. Mais après ce qu'il a fait dimanche dernier sur la pelouse de l'Atlético Wanda, j'y étais. C'est hallucinant. Et là, ce soir, c'est la deuxième fois. Il avait déjà fait un dégagement tellement rapide à Retafe qu'il avait offert une passe décisive à Suarez. Pour un contre extraordinaire. Et ce soir, pour le premier but du Barça, c'est sur Griezmann. Vous savez, un gardien qui traîne pas, qui relance comme s'il était un milieu de terrain. C'est-à-dire qu'il fait des passes de milieu de terrain. Et c'est le but de Griezmann, c'est avant tout, c'est 50% la passe décisive de Ter Stegen qui de cette saison, c'est quand même extraordinaire. Donc le Barça va beaucoup mieux, le Barça est bien dans le jeu et surtout le Barça se fait plaisir.
C'est parfait, Fred, à une semaine là.
Ben oui.
À une semaine du Classico là.
Alors,
Barça a répondu au Real qui a battu l'Espagnol 2-0.
Alors ça, c'était moche. C'était un match très moche. C'était un match de 13h contre l'avant-dernier de la Liga. On s'est vraiment ennuyé. Mais bon, Varane a marqué un beau but sur une passe décisive de Benzema. Benzema qui a marqué le deuxième but.
Encore.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, en Espagne, nous avons un duel entre Karim Benzema et Léo Messi.
Oui, ça va pas tenir, ça. Messi va finir devant, Fred.
Bah, en tout cas, ça tombe bien parce que tu sais, on fait l'after tous les samedis. Donc, on peut faire un point tous les samedis si tu veux. On fait le point quand
il est devant maintenant, Messi. Ça y est.
Alors, Messi, avec son triplé, on est à 12 buts. Benzema à 11 buts. Et ils sont tous les deux les deux meilleurs buteurs.
Oui, t'as vu la fréquence de Messi? Il part de plus loin, Messi, il a loupé un peu le début de saison, là il enchaîne.
Bien sûr. Non, mais c'est terminé parce qu'on va tout dire. Les deux meilleurs passeurs sont aussi Messi et Benzema avec 5 passes chacun. Donc c'est ça qui est magnifique, c'est-à-dire ce sont deux joueurs ultra complets qui sont dans une grande grande forme. A priori Messi va dépasser Benzema en tout. Enfin, on fera le point chaque semaine si ça vous dérange pas.
Ah ben non, Fred, t'as raison.
Fred, pour revenir sur le Barça. Aussi, on peut dire qu'ils reviennent parce que le bizutage est terminé.
Non.
De Griezmann.
J'ai
l'impression.
Griezmann,
quand même
on l'a vu 5 minutes ce soir.
Ouais, mais bon, je sens qu'il quand même.
Ah bah il sait, commence ça va à mieux.
Il commence à l'intégrer.
Commence, oui, voilà. Ça commence à intégrer. Après, ouais. Je vais pas vous dire que Griezmann a fait un grand match ce soir parce que c'est pas le cas. Il marque un but magnifique parce que c'est vrai que sur la passe décisive de Ter Stegen, il fait une petite balle piquée avec une facilité déconcertante. Entre parenthèses, exactement ce qui manque à l'Atlético qui a encore fait match nul et qui n'a marqué que 16 buts en 16 journées. Oui, petit à petit, ça se construit, mais on va pas dire que Griezmann a fait un grand match. Il a marqué un grand but, mais il a pas fait un grand match ce soir. Sinon, un petit mot sur Gamero. Il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de Gamero.
Oui, le doublé.
Doublé en 2 minutes, et ce qui a permis une magnifique remontada de Valence qui gagne à l'Evante dans le derby de Valence 4-2. Et puis je vous annonce déjà pour la semaine, pour le week-end prochain, il y a la Ligue des Champions, mais on sait déjà que le Real et le Barça sont qualifiés. On a, avant le Classico qui aura lieu le mercredi 18, nous avons un somptueux Real Sociedad Barça et un autre sûrement somptueux Valence Real.
Ah oui.
Donc les lignes pourraient bouger parce que tous les deux sont collidaires. Le Barça devant la différence de but, mais ils ont chacun le week-end un déplacement très difficile, donc on va se régaler.
On va se régaler comme tous les week-ends, notamment en Liga. Merci Fred, excellente soirée.
Adios,
à toi. À très vite dans l'after, bien sûr, dès demain, certainement, je sais pas, on verra ça. Merci Ludo.
Merci à vous.
Merci Jonathan.
Salut les gars.
Pour une fois, on rappelle la victoire d'Anthony Joshua quand même, ouais, qui nous a accompagné dans l'after face à Andy Ruiz.
Très bien.
Et a priori, ils ont annoncé peut-être, ils sont ouverts à un troisième combat.
Normal.
Si Wilder bat.
Est-ce qu'il a encore une chance de battre Joshua?
Oui. Clairement. Si Wilder bat Fury, rêvez pas, ça sera Joshua Wilder qui se passera.
Avec une limite de poids pour Ruiz quand même, parce que là. Le cirque, ça va 5 minutes. Quoi.
Genre, il a dit dans son interview. Je rappelle que le poids m'a beaucoup affecté.
Je rappelle qu'on est en train d'affiner la date et le rendez-vous, blague. Le combat entre Ludo Bragnac et Jonathan McCarty.
Ouais.
Ce sera sûrement fin mai, 28 mai peut-être.
Jonathan essaiera de saloper le match, comme il l'a dit.
Salir le match.
Voilà. Parce que c'est sa mentalité.
Mais c'est même pas
tout le respect
que
j'ai pour toi, on est un peu sur une confrontation Joshua Ruiz.
Un petit peu, ouais.
Allez
les gars,
ça tu vas le payer.
Excellente soirée à tous, merci d'avoir écouté l'after, à très vite. Dès demain soir bien sûr pour l'after après OM Bordeaux. Bye bye.
RMC. L'after foot.
Just because you travel doesn't mean you can't keep your routine. The more obstacles travel puts between us and our well-being, the more we strive to sleep well. At Westin Hotels and Resorts, we're focused on empowering your well-being. With our award-winning Heavenly Bed, you can get the restorative sleep you need and meet the challenges of the day head-on. Don't leave your well-being behind. We give you the choice to get up or to rise. Search Westin online to find out more. Westin, let's rise.